102.1 avec Jeff Fortin et Pascal CV. Le midi, on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Midi, une minute. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. Pour ceux qui étaient déjà là, merci de continuer à écouter la station Boulevard 102.1. C'est l'émission On en jase avec Jeff Fortin. Ce midi, Pascal CV est en congé. Je suis avec le collègue Mathias Turcotte. Ça va bien, Matt?
Yes, ça va très bien. Et vous, chers auditeurs, est-ce que vous allez bien malgré la température et des routes? Est-ce que ça semble un peu plus difficile aujourd'hui?
Oui, en effet, on va être attentif sur la circulation, Mathias, parce que quand Antonine s'est en allée, c'était une véritable tempête. Mais Anto, t'es là, t'es en sécurité.
Oui, ça roulait pas vite.
Non, c'est ça. Excellent. Donc, soyez vigilants sur les routes, évidemment. Tu parlais de la météo, Mathias. Aujourd'hui, c'est moins 3 degrés avec averses de neige. Demain, ce sera quelques averses de neige à moins 10. Mais cette fin de semaine, c'est du moins 18, moins 16, mais avec du ressenti qui pourrait aller dans la nuit jusqu'à moins 40.
Oh.
Ce qui fait en sorte qu'on offre des services additionnels au niveau des ressources en itinérance, notamment à l'Aube-Rivière, où on va permettre à tout le monde de déjeuner. On va également mettre des films dans la cafétéria dans la journée pour que les gens fassent du petit cocooning. Mais ils ont besoin de vos dons pour nourrir ces personnes-là. Vous textez immédiatement le 410-10. 410-10, puis c'est un 10$ qui s'en va à l'Aube-Rivière. Je l'ai fait ce matin, on le fait en grand nombre, guys. On aide cette organisation, cet organisme qui fait tellement un travail exceptionnel avec les personnes itinérantes. 418-971-101 pour nous écrire. Salut le chum Carl qui nous a écrit « Bon midi ». Également, blvd.fm, c'est les meilleurs moments de l'émission. C'est la web radio. L'application Boulevard 102 disponible sur App Store, Google Play Store. C'est la meilleure façon de nous écouter partout où tu te retrouves. Twitch.tv/blvdfm pour venir nous voir. Donc, viens voir nos belles petites faces en studio. Vous êtes plusieurs présentement. Je vois que vous avez fait un petit débat concernant là, les laissez-passer pour le festival d'été qui ont augmenté de 15$.
Oh mon Dieu.
Et également, abonnez-vous à notre page YouTube. Vous retrouvez justement des moments inédits de Boulevard, notamment les podcasts qu'on vous présente présentement. C'est la série des podcasts Grands événements de Denis Gravel qui est mis à l'avant-plan. Mathias, ça brasse énormément dans l'actualité. Une course à la chefferie de la CAQ, des négociations massives très intenses. Fais-nous un petit résumé avant qu'on passe au caucus, s'il vous plaît.
Oui, bien, on a revu de l'espoir aujourd'hui, j'ai envie de dire, du côté de massif de Charlevoix. On avait fermé la station de ski pour la saison. Là, on dit qu'on a transmis une dernière offre, une dernière proposition au syndicat que les employés syndiqués devront voter. Ce qu'on nous dit du côté du syndicat actuellement, c'est que l'offre, le vote, le résultat de ce vote-là devrait être connu, devrait être du public au cours de l'après-midi. Donc, vis-à-vis la mi-après-midi, normalement, on devrait savoir est-ce qu'on va avoir une saison de ski ou non du côté du massif. Présentement, les libéraux fédéraux sont en ville. Premier ministre Mark Carney est là. Joël Lightband également, qui est le lieutenant du Québec désormais. Puis, il y a une pression qui continue d'être exercée sur le gouvernement libéral pour augmenter le financement au tramway. Jean-François Simard qui a envoyé une lettre à ce propos justement à Joël Lightband en particulier. Dans cette lettre, la demande est plutôt simple. Présentement, le gouvernement fédéral finance le tramway pour 1,44 milliard de dollars. Du côté du gouvernement du Québec, on demande que ce soit 40 % du financement qui soit financé parce que initialement au début du projet, le projet coûtait moins cher. On a accepté de financer 40 %.
Exactement.
On veut garder ce 40 %-là, donc ça porterait la part du fédéral à 3 milliards de dollars.
Oui, mais pour rappel, c'était 3,3 milliards de dollars, le premier estimé du tramway.
Là, on est à 7,6
milliards. Exactement. Il y a de cela des lunes en 2018, et là, on est rendu à 7,6 milliards en 2026. C'est un bel exemple, ça, Anto, je vais te faire commenter rapidement. C'est un bel exemple de quand on se pogne le bacon avec des projets, ça finit toujours par coûter plus cher, puis c'est des projets anyway qu'on a de besoin.
Oui, puis ça veut pas dire que quand on nous présente un projet, il faut pas questionner est-ce qu'on paye le prix juste.
En effet.
Mais toutes les tergiversations vont faire en sorte que finalement, on paye plus cher.
Oui, et on le rappelle, c'est 7 ans d'incompétence de la CAQ dans le dossier du tramway. C'est aussi simple que ça. Une petite dernière, Matt?
Oui, rapidement, juste, t'en as parlé, la facture des passés du Festival d'été de Québec qui passe de 165 à 180. Une hausse de 15, ça reste pas cher pour un festival de cette ampleur-là. Et je passe finalement aux règles d'achèverie de la CAQ qui vont être annoncées à 13h en point de presse officiel. Par contre, du côté de la CAQ, on les a déjà publiées sur le site. On parle de 30 000 $ qui vont être demandés si jamais un candidat décide de se présenter. Également, 1 000 membres en règle du parti devront signer pour appuyer la candidature, provenant d'au moins 75 circonscriptions. La règle qui étonne le plus, puis qui choque le plus, puis selon moi va poser problème au plus de candidats potentiels du côté de la CAQ, 15 députés actuels de la CAQ devront donner leur appui ou à un potentiel chef qui voudrait se lancer dans cette course à la chefferie.
On en parle immédiatement dans le caucus.
Le caucus. Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le caucus avec Antonin Iaccarini. On attaque directement la course à la CAQ. Anto, c'est quoi tes premières impressions?
Je trouve que les règles sont sévères. C'est sûr que le message qu'on envoie, c'est on veut pas de gens de l'extérieur. Parce que dans les dernières courses qu'on a connues dans les dernières années, les candidats de l'extérieur du caucus ont rarement beaucoup d'appui des députés. Donc, ça peut arriver, mais c'est plus rare. Je peux penser à Québec solidaire là, qui avait présenté, Émilise Lessard-Terrien, qui parlait d'ailleurs avec Max cette semaine, un peu plus tôt cette semaine, dans son émission. Elle était hors caucus, elle n'était plus députée, mais elle l'avait déjà été. Elle connaissait les membres du caucus de QS. Donc, c'est un peu étrange, je trouve, comme règle, et c'est beaucoup. Est-ce qu'on n'aurait pas pu dire 5 députés?
Oui, parce qu'à 15, là, la CAQ était élue à 90, mais ils sont rendus à 79, je pense.
Ouais. Sauf que là, ce qu'on me dit, puis à confirmer, c'est que c'est pas un appui comme tel. C'est comme un endossement. Donc, par exemple, moi, je suis députée de, je vais dire n'importe quoi, Saint-Jérôme. Non, c'est pas vrai, il a quitté le caucus, mais
ouais,
peu importe.
Yuri Chassin.
Bon, peu importe. Je suis députée de Saint-Jérôme et je décide d'endosser 3 candidats. Il n'y a rien qui t'empêche. Donc, à ce titre-là...
Ah, alors là, c'est très différent parce que là, ouais. Moi, le calcul que je faisais en disant son 79, c'est que j'ai... Ça laisse pas grand-place parce que quand tu appuies quelqu'un, il y a beaucoup de gens qui vont appuyer un candidat parce qu'ils sentent qu'il va gagner.
Aussi.
Puis t'aimes ça appuyer le gagnant.
Oui, parce qu'il va te donner quelque chose en échange.
Exactement. Tu sais, je vais donner un exemple très frappant. Puis là, finalement, ça s'est terminé de façon très catastrophique. Mais Marois Risquet, elle a appuyé Pablo Rodriguez dans les dernières semaines de sa campagne quand elle sentait qu'elle allait gagner.
C'est vrai.
Parce qu'elle s'est dit, ouais, ça va être le fun, moi.
D'après moi, elle regrette un peu son choix.
Ouais, mais elle aimait ça, challenger le premier ministre. C'est pour ça qu'elle l'a fait.
Bien, elle a eu, c'est ça, le poste de chef parlementaire par la suite. Ce qui m'amène à te parler du risque aussi de mettre dans les règles les appuis comme ça. Parce que, bien, premièrement, il y a, comme tu disais, 78 députés à peu près présentement à la CAQ. Ça les met dans une position avec un fort levier de négociation avec les candidats potentiels. Déjà que moi, je trouvais qu'une course à la chefferie, quand tu es au pouvoir, avec des ministres qui donnent des appuis, ça peut créer toutes sortes de conflits d'intérêts avec les dossiers. Là, en plus, les candidats vont être en mode un peu supplication, là. Appuie-moi, appuie-moi. Les députés le savent bien. Donc, est-ce qu'on va aller marchander? Tout le monde est honnête et gentil dans la vie, bien sûr. Mais ça peut être tentant de demander quelque chose. Mais moi, je vais t'appuyer, mais je veux mon école dans mon comté, je veux qu'on change d'idée sur tel dossier, etc., etc.
Ben oui, je vais te donner un exemple frappant. Bernard Drainville, qui va nécessairement se présenter, va chercher les appuis nécessaires, parce qu'hier, Karianne Bourassa et Samuel Poulain ont prôné pour Bernard Drainville, deux députés de la CAQ. D'ailleurs, on va avoir Karianne Bourassa tout à l'heure aux alentours de 13h30 dans l'émission en entrevue. On l'a présenté comme le candidat des régions.
Oui.
Ça veut dire, moi, je suis député dans une région. Là. Puis là, je m'en vais voir Bernard, je vais t'appuyer. Mais exactement le même exemple que tu viens de dire. Moi, il manque une école, hein, si tu deviens premier ministre.
Ouais. Puis mon pont, il est à refaire. Puis,
c'est ça, puis mon pont, puis ma route. Hey, tu vas m'amener ça jusqu'à Rimouski.
Puis moi,
hein,
mes électeurs, ils n'aiment pas bien ça, là, telle affaire, telle politique qu'on a faite. Tu vas te reculer là-dessus.
Ouais.
Donc, je trouve que ça ouvre la porte à beaucoup de négociations qui ont lieu un peu de toute façon dans toutes les courses, qui n'ont pas se compter de mensonges. Mais là, on augmente un petit peu la pression sur les candidats pour séduire les députés. On le disait tantôt, Mathias le disait, 1000 signatures dans 75 circonscriptions, mais là-dessus, on doit avoir au moins la signature de 100 membres de la relève.
Mm-hmm.
Je ne sais pas le nombre de membres de la CAQ. Ce n'est pas des informations publiques, le nombre de membres de chaque parti. Puis des fois, ils ont le décompte un peu lousse, là, dans le sens que si tu n'as pas renouvelé ta carte depuis 3 ans, ils te comptent pareil.
Ouais.
Je ne sais pas ça fait combien de personnes, mais... Comme ça avait fait avec la course au Parti libéral, étant donné qu'il y avait des règles aussi là, qui faisaient en sorte que certains membres devenaient très, très précieux. Donc, on faisait des jokes, on disait « le jeune aux îles de la Madeleine, là, son vote, là, il valait beaucoup plus qu'un vote finalement parce qu'il n'y a pas beaucoup de membres et que tu as un surpoids régional étant donné qu'on te demande d'aller chercher dans plusieurs circonscriptions et qu'on te demande d'aller chercher dans certains groupes d'âge précis. Donc, ce n'est pas un parti, la CAQ, qui avait 100 000 membres là, à la base, mm-hmm. on va dire la vérité.
Bien, la CAQ n'a pas l'historique du Parti québécois ou du Parti libéral.
Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, mais effectivement, ça va probablement faire en sorte de réduire le nombre de candidatures. Il y avait déjà quand même pas mal de gens qui s'étaient désistés cette semaine. On peut penser à Yann Lafrenière.
Mm-hmm.
On peut penser à Éric Girard. Donc, maintenant, ton poulain...
Bien, c'est le coup de gaz pour Jean-François Simard.
Je pense que c'est fini.
Penses-tu que Bernard, ça va être difficile?
Je le sais pas, parce que moi, je pense qu'on le sous-estime beaucoup. Bernard, j'en parlais hier, les commentaires sur les médias sociaux sont très durs. Je pense qu'il polarise, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens derrière lui. Je sens qu'il y a une organisation quand même assez solide. Les deux appuis qu'il a présentés hier, Karianne Bourassa et Samuel Poulain, c'est pas banal. C'est deux députés de région, un de la Beauce, un de Charlevoix. Deux députés jeunes. Samuel Poulain, c'est un vrai CAQIS. Il est là depuis longtemps. Il était attaché de presse de l'aile parlementaire quand la CAQ était dans l'opposition. Il n'y a personne qui peut dire que c'est pas un vrai de vrai. Donc, et je pense que Bernard a la tendance à brasser la cage qui peut faire la différence dans une course. Ça peut être le Joker.
Oui. Surtout dans une course à trois, le Joker se faufile des fois.
Je surveille le troisième lien beaucoup comme dossier parce que Christine Fréchette nous apparaît plus comme la Montréalaise, bon chic, bon genre, qui déplaît à personne, etc.
La candidate de l'establishment.
Peut-être un petit peu plus la candidate de l'establishment. Quoique, c'est quoi l'establishment de la CAQ, c'est pas toujours clair. Mais par exemple, à Montréal, les pressions sont très fortes pour le troisième lien. Okay? Les gens sont contre à Montréal. T'as des concerts, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est pas grave, ils sont contre. Et un Bernard Drinville pourrait dire, ben... Le monde de Montréal, vous allez manger de la colle.
Massacre.
On le fait. Massacre. Ouais.
Ben moi, je vois un Bernard Drinville arriver dans la course à la chefferie de la CAQ. Et là, tu me corriges si je me trompe, mais dire le troisième lien, savez-vous quoi? Tout ce qu'on a fait depuis le début, c'est de la boîte. C'est à l'Est qui s'en va.
Là, évidemment, il y a l'emplacement. Parce que déjà, est-ce que tous les candidats vont être pour, contre? On verra.
Exactement.
Après ça, tu peux te mettre à gosser sur le plan d'ingénierie. Et ça va mettre Jonathan Julien dans une très drôle de position. Donc, moi, je ne suis pas sûre que ce dossier-là va avancer énormément. Simon-Jeanin Barrette est allé chercher deux autres appuis. André Lamontagne, ancien ministre de l'Agriculture, qui a annoncé qu'il ne se représentait pas, mais qui est quand même quelqu'un qui est là depuis très longtemps, qui est très respecté, aimé de tous à l'interne. Et Louis Lemieux, ancienne figure des médias québécois qui est député à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je reviens sur Éric Girard. Je pense qu'il va rester neutre finalement dans la course. On aurait pu croire qu'il aurait peut-être appuyé Christine Fréchette. Ils ont beaucoup de choses en commun, notamment d'être Montréalais et de prôner un nationalisme plus inclusif, en contraste peut-être avec un Simon-Jeanin Barrette. Mais je pense qu'il pourrait vraiment être le symbole de la stabilité. Tu sais, on a vu François Legault hier sortir en conférence de presse. Il voulait nous rappeler qu'il y a un premier ministre encore au Québec.
Ben, il a bien fait, je crois.
Mais ça serait peut-être bien que le ministre des Finances aussi reste un peu en dehors de tout ça.
En effet.
Nous demande qu'on gère les choses de manière responsable.
Pragmatique.
Dans la course. Et à l'abri des influences des candidats. Mm-hmm. Parce que on va savoir le 15 avril qui est le prochain chef, mais en attendant, sans faire des coups d'éclat, moi, je pense qu'on doit garder un peu le cap sans prendre des grands virages. Ils n'ont pas la légitimité pour le faire, mais en même temps, tu ne veux pas non plus que ça se mette à marchander avec les candidats, puis qu'est-ce qu'on met dans le budget, puis qu'est-ce qu'on ne met pas dans le budget.
T'sais. Je reviens sur le 15 députés. Et là, je réfléchis à voix haute avec toi. Le nouveau premier ministre ou la nouvelle première ministre va se nommer un nouveau conseil des ministres?
Eh oui.
C'est là qu'un chum peut devenir un chum, pour reprendre une expression que je viens de voir passer par texto. Hey, tu m'as appuyé, crime, t'as jamais été ministre.
Un chum, c'est un chum.
Ben, c'est ça, gadon oui. ça. Hop, m'a te donné un petit cadeau de fin de mandat. Ben tu vas oui. avoir ça sur ton CV. Mm-hmm. On sera pas réélu au pouvoir, mais tu vas avoir été ministre de quelque chose pendant 4-5 mois.
Tu sais, quand t'es dans l'opposition, là, puis que t'as une course à la chefferie, les candidats, ils promettent des dossiers. Si je gagne, là, je vais te donner le dossier de la santé. Tu sais, c'est bien le fun, là, mais c'est pas comme à devenir ministre, là. Tu sais, où est-ce qu'on te donne un portefeuille, mm-hmm. puis une voiture de fonction, puis ah ouais, là.
Mais plus loin que ça, oui, on te donne un portefeuille, puis t'as le titre, mais c'est plusieurs milliers de dollars supplémentaires, faut y penser,
oui,
ça fait une méchante différence.
En effet, du salaire, excellent point.
Ouais, fait qu'il va y avoir cette espèce de situation un petit peu bizarre, et j'ajoute aussi, parce qu'il y a la question de... J'échange ton appui contre des nananes, ça arrive tout le temps. Là. Mais il y a aussi les questions de stabilité gouvernementale et d'avancement des dossiers. Parce que là, on a des candidats qui vont devoir laisser leur poste de ministre. Après ça, on va devoir faire un ajustement ministériel pour les remplacer. Après ça, il va y avoir un autre conseil des ministres nommé quand le nouveau chef va arriver ou la nouvelle chef. Puis, ça pourrait créer des chicanes. Parce que si, par exemple, Simon-Jolin Barrette gagne la course, puis qu'il décide que il prend un virage sur quelque chose. Puis là, le ministre qui était en charge de ce dossier-là avant, qui a commencé à travailler sur quelque chose, il se fait mettre ça dans la déchiqueteuse, puis il se fâche, puis il démissionne, par exemple. Tu sais, ça peut faire des
vagues. Hey, en effet, comme ça, avec un parti, on s'entend qu'il ne remontera pas tant que ça dans les sondages. Donc,
qui sait?
Avec le fait que tu es sur un siège éjectable, ça se peut que tu te rébelles un peu plus contre ton nouveau chef
et
que non.
Et ce, à quelques mois des élections.
Ouais, exactement.
Et là, je veux aussi, je m'excuse de décourager tout le monde aujourd'hui.
Mais
là,
vas-y.
Les attentes étaient peut-être pas très élevées non plus. Donc, 15 avril, nouveau chef. Après ça, nouveau conseil des ministres. La session parlementaire, ça finit juste avant la Saint-Jean, là, mm-hmm. généralement. Puis après ça, c'est l'été préélectoral. Et ça sera pas productif, là.
Non, puis c'est pas productif depuis juin dernier.
Et
en
voilà.
raison, je le rappelle, que François Legault a dit « Moi, je vais faire un nouveau conseil des ministres à l'automne. » Fait que là, personne n'a travaillé dans l'été.
Une belle transparence.
Une belle...
François
ouais,
Legault.
On l'adore.
Il va nous manquer.
Il va nous manquer. On l'adorait pour sa transparence, il n'y a pas de doute. Mais on n'a pas travaillé. Fait que quand on va arriver... Au lendemain de l'élection du 2 octobre, si je me souviens bien de la date, je la nomme de mémoire, on va se retrouver avec un Parlement qui va pratiquement avoir été au ralenti pendant un an.
Complètement.
On entre dans le même cycle que
au fédéral.
Qu'au fédéral.
C'est juste qu'au fédéral, ça tourne tout le temps au ralenti, en tout cas.
Ouais.
Mais effectivement, c'est un peu décourageant. Puis c'est pas comme si les défis sociaux, économiques et internationaux manquaient.
mais est-ce qu'au contraire, on pourrait voir un Parlement qui roule excessivement vite? Puis là, je m'explique, quelqu'un qui arrive au pouvoir puis qui se dit, on va mettre en place plein de dossiers qui vont faire plaisir à la population,
ouais.
retrait du marché carbone, troisième lien à l'Est, plein de dossiers comme ça qu'on starte puis qu'on dit, hey, on est vraiment là
bon,
pour vous puis on vous écoute.
Retrait du marché carbone à suivre, mais c'est pas ça que M. Legault a essayé de faire l'automne dernier. Moi, je trouve qu'il a essayé.
Exactement.
Ça marche pas si bien non plus d'essayer de tout faire en deux minutes. T'sais. Puis je reprends une expression que Mario Dumont a dite et que je trouve très bonne. T'sais. C'est comme l'étudiant de cégep qui se réveille la veille de remettre son travail de 35 pages. Là.
Des fois, ça marche bien.
Des fois. Des fois, non.
D'autres fois, ça t'amène à 11% dans les sondages à égalité avec QS. Je veux juste le rappeler. On est dans le caucus avec Antonine Iacarini. C'est du lundi au jeudi à l'émission On en jase sur Boulevard 101. Anto, avant de passer à Mark Carney qui s'est fait chauffer à Queens à la télévision française.
Oui, parce qu'en en fait, il se fait beaucoup applaudir depuis deux jours.
Oui, oui.
Mais c'est pas l'unanimité non plus. Hein. Il y a quand même des voix dissonantes.
Mais avant de passer à lui, compte tenu qu'on parle de la CAQ, tu veux qu'on entende la performance du candidat dans Chicoutimi, une performance humoristique, mes amis.
Je mets quand même en contexte avant.
Ben oui, vas-y.
Il faut que je fasse un avertissement à nos auditeurs qui ont
oui.
les oreilles sensibles. Okay?
En effet.
Donc, candidat de la CAQ pour l'élection partielle de Chicoutimi, c'est Francis Tremblay. Puis quand on en a parlé cette semaine, j'ai dit, que c'est tout un personnage. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça.
OK.
Je savais pas ce que ça voulait dire.
Alors là, en chroniqueuse aguerrie, t'es allée fouiller la vie de Francis Tremblay.
Ben, j'ai pas fouillé bien loin, c'était sur YouTube en passant la gang, OK? Et il y a ce qu'on appelle des gong shows. Je connaissais pas ça.
Oui, le gong show, il y en a eu un à la salle Albert Rousseau l'an passé. Notre ancien collègue Reg Laplanche avait été juge là-bas. Nathan Meilleur de Weekend Radio, que vous entendez à Boulevard,
vraiment
il a participé.
Dans le fond, t'es sur scène. Et t'as quelques minutes pour être drôle, OK? Moi, c'est la définition même d'un cauchemar. Là. Mettons que je fais des cauchemars la nuit, c'est le genre de rêve que je fais, là. J'en sois drôle, puis tout le monde te regarde, là. Et si t'es pas drôle, bien, il y a quelqu'un qui sonne le gong, puis il faut que tu sortes
c'est
de
ça.
Scène. Et notre ami Francis Tremblay a participé à un
gong
show. Et je dois dire que c'est quand même un peu mon genre d'humour.
Ah, il
mais
était
je
drôle.
Vous laisse juger.
Exactement, il était très drôle. On écoute Francis Tremblay, candidat dans Chicoutimi à la CAQ au Gong Show.
Non, ça va pas tant bien ces temps-ci dans ma famille. C'est ça, le mois passé, mon grand-père maternel, il m'a annoncé qu'il avait le cancer du sein. Puis ben, moi, quand il m'a annoncé ça, j'ai trouvé ça quand même plate un peu sur le coup. Puis tu sais, après ça, je me suis dit, tu sais, c'est fucké parce que mon grand-père, c'était le dernier gars à dire qu'il pouvait avoir le cancer du sein. Crispin macho, le gars. Vraiment le pire des machos. Il disait, Chris, le cancer du sein, c'est pour les femmes, ça, c'est le ruban rose. Si c'était pour les gars, ce serait un ruban en noir avec des flammes et tout. Mais... Non. Pour de vrai, il a réalisé qu'il avait un cancer du sein parce que c'est ça, il me contait ça l'autre fois. C'est ça, il était avec son partenaire, puis avec ses seins, il massait le pénis de son partenaire comme ça. Il a senti comme une bosse, puis c'est comme ça qu'il a consulté, mes gars. Il a consulté tard un peu.
C'était écœurant. Puis les juges rient aux êtres là, puis je l'ai pas laissé, mais il y a un juge qui dit « Ah, c'est calme, ce numéro-là. » Donc, c'est vraiment bon. Sûrement une carrière plus longue en humour que ce qu'il va avoir comme politicien.
On sait pas. Puis, tu sais, l'humour, là, ça peut être une arme redoutable. Non, c'est pas vrai. En politique, l'humour le moins possible.
Ouais.
Honnêtement, le deuxième degré en politique...
Mais il devrait être bon dans un débat, par exemple. Va qu'à de lancer deux, trois
écoute,
répliques.
Premièrement... Je suis ultra fan de l'accent du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je trouve ça extraordinaire. Puis je le trouve vraiment drôle. Moi, c'est ça, je suis choquée par rien dans la vie, dans le sens que je suis un bon public d'humour, et surtout quand c'est un petit peu déstabilisant comme ça. Maintenant, quand tu es un parti politique puis tu veux présenter un candidat, là, d'habitude, ça, c'est objet, c'est matière à...
Tu l'enlèves, là.
Oui.
Sauf que compte tenu que c'est sur le YouTube du Gong Show... Ça doit être tough de l'enlever.
Non, ce que je veux dire, c'est que t'enlèves le candidat. Pas la vidéo, tu comprends? C'est que tu dis, hey, Francis, merci beaucoup de lever la main, mais écoute, ça va nous... On n'a pas besoin de ça, là, tu sais. Pis...
Ouais.
Mais ils l'ont présenté pareil.
Oui, puis maintenant, on est en train d'écouter lui qui parle de son grand-père qui a le cancer du sein.
Du sein, puis qui fait des... je vais utiliser l'acronyme DCT.
Ouais.
Je me dis, moi, par exemple, si je me présentais puis que j'avais une vidéo de même qui circule,
mm-hmm.
C'est pas la fin du monde, là. C'est pas grave, là. Il a pas assassiné quelqu'un.
Fait
là.
De l'humour, là.
C'est de l'humour, c'est drôle.
Il s'est pas posé avec un drapeau nazi puis une carabine.
Exactement. Puis moi, je pense que je l'aborderais de front.
Oui.
Je l'aurais envoyé moi-même à Infoman, tu comprends? Là, je dirais, regarde, j'ai fait ça, c'était drôle, c'est de l'humour. Maintenant, j'ai quand même des idées sérieuses pour le
c'est
Québec, tu sais, blablabla.
Non, en effet.
Mais ça m'a bien fait marrer, fait que ça, c'est le candidat de la CAQ.
Je l'adore. 418-971-101, est-ce que vous êtes comme nous et que vous adorez Francis Tremblay, son humour, le candidat dans Chicoutimi de la CAQ? Donc, écrivez-nous. Jusqu'à présent, les réactions sont très, 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 très positives. Mark Carney, réaction plus négative bon. En France, est-ce que tu veux qu'on écoute l'extrait puis par la suite on en parle?
Ouais, vas-y donc.
Non, je ne sais pas si c'est le premier ministre du Canada qui fait le malin à Davos, mais qui est allé voir Xi Jinping, pas un mot sur les droits de l'homme en Chine. Pas un mot sur les droits de l'homme en Chine.
Il est nul, complètement nul.
Il est nul, oui, le premier ministre canadien. Se tourner vers la Chine, mais alors autant aller tout de suite en enfer. Non, c'est...
Mais c'est l'idole de beaucoup de gens.
Ouais, Davos, c'est l'idole de beaucoup de gens.
Il est nul!
Ah, si j'adore l'humour, j'adore la télévision française. T'sais, nous, on va essayer de trouver le bon mot, le synonyme pour essayer de tempérer.
Non, eux autres, Il est nul!
Qu'il
autant
est
aller en enfer!
Ça, c'est-tu une chaîne de nouvelles française?
Ben, c'est une émission d'affaires
okay.
publiques.
Okay. J'adore!
Puis, j'ai trouvé ça drôle parce que, honnêtement, M. Carney a reçu un paquet de commentaires dithyrambiques, très positifs sur ton allocution à Davos. J'ai entendu certains diplomates là, qui étaient comme « Oh non, on va fâcher les États-Unis, là, ça c'est correct. » Puis on les comprend. Le monsieur qui dit « il est nul », c'est un militaire, OK? Il faut quand même
ouais.
le dire. Donc, c'est pas quelqu'un qui fait nécessairement beaucoup de politique. L'idée de faire des ententes avec un pays vu comme étant pas un allié, tu sais, je comprends que ça lui rentrait pas dans la tête. Et d'ailleurs, on est tous un peu en dissonance cognitive présentement avec la Chine. Ça fait des années qu'on nous dit qu'ils nous espionnent, qu'ils s'ingèrent dans nos élections, puis qu'ils sont méchants.
C'est clair, ça me fait penser que Steve Waterhouse va être avec nous après le caucus. C'est un expert, justement, cybersécurité. On va parler du Canada, qui est le champion du vol de données. Puis là, ben, on veut rentrer des autos auto électrique chinoise. Fait que je me pose plein de questions.
Ben, avec raison. Puis je pense que la plupart des gens à la maison aussi commencent à se poser des questions là-dessus. On voudrait tous payer moins cher pour nos véhicules électriques, mais est-ce que ça pose certains risques? Donc, M. Carney qui... a fait grande impression. Son allocution a fait le tour du monde. On a beaucoup entendu parler du premier ministre Carney à la suite de Davos. Et je dois dire que ça détonne beaucoup avec le style de Justin Trudeau, qui lui faisait parler de lui, mais pour des raisons, ma foi, tellement superficielles. Mm-hmm. C'était tout de l'image, tout le temps. C'est le fun d'avoir un peu de substance.
Oui, bien, c'est justement ça. Puis j'ai eu la même réflexion en écoutant le discours. Il me semble que notre image à l'international de Canada avec Justin Trudeau s'est beaucoup détériorée au cours des années Trudeau.
Ouais, au début, c'était cool.
Mais on va se dire, c'était vraiment pas sa force, ça, les relations internationales. Non. Est-ce qu'on voit justement un tournant de cette image-là que Canada a à l'international avec Mark Carney maintenant?
Ben, j'imagine que les patriotes canadiens tels que Jeff l'espèrent ardemment parce que honnêtement, l'étoile du Canada a beaucoup pâli dans les dernières années. Je pense que M. Harper a quand même contribué à cette situation-là d'une toute autre manière que M. Trudeau en se désinvestissant
en effet.
Des grandes rencontres internationales, des organisations multilatérales sur les questions de l'environnement. À un certain moment où le monde se mobilisait un peu pour essayer de faire quelque chose, M. Harper n'était pas très intéressé par la chose. Quand Justin Trudeau est arrivé au pouvoir, il a eu l'air d'un vent de fraîcheur puis il a dit « Canada is back! » On est de retour. Puis là, on va faire plein d'affaires. Puis là, finalement, c'était juste des selfies, puis il s'est rien passé. Puis je sais que je caricature un peu, j'ai vu Justin Trudeau avec Katy Perry à Davos cette semaine, réaction, là, ça a été « Justin, les adultes essaient de travailler, Justin. Arrête de déranger. Je compte jusqu'à trois, Justin. Va-t'en. Un, deux, Justin. » Il m'énerve. C'est sérieux.
Je sais, je suis d'accord avec toi. C'est juste que j'aime ta montée de lait, fait que je te laisse aller, là.
Ben, c'est ça. J'ai fini.
Yes. Hey, on termine juste avec Mark Carney, qui est en capitale nationale, conférence de presse au manège militaire, aujourd'hui, 13h. Tu vois ça comment comme symbole de se présenter dans la capitale nationale alors que le PQ est en avance dans les sondages puis qu'on va recommencer à parler de souveraineté?
Écoute, il vient au Québec, bravo, parce qu'on le voit pas souvent.
En effet.
Il fait pas beaucoup d'entrevues.
Il va faire une conférence en français.
En français. À Davos, j'aurais aimé ça qu'ils disent un petit mot en français. Mais bon, c'est correct. Je comprends qu'il y a des choses importantes qui se passent puis que des fois, on ne peut pas s'en faire jouer dans la fleur du tapis. C'est bien correct. Mais effectivement, on nous dit qu'il va nous parler des choix qui ont permis de bâtir le Canada et les valeurs communes qui créent un Canada fort.
Ça revient à ce que je dis, puis là, tu sais, j'ai été très impressionné par son discours, fait que je veux faire attention, mais en même temps, je veux montrer les deux côtés de la médaille. Mark Carney est continuellement en campagne électorale.
Oui.
C'est des thématiques, c'est des mots.
C'est vrai, mais je suis obligée de dire qu'il pose quand même des gestes. T'sais, on a reçu Pierre Poilievre cette semaine, puis là, il laisse croire que c'est juste des mots, mais il fait des choses. Puis je pense que ce qui va y jouer un tour, c'est qu'il n'est pas souvent à la maison, justement, puis qu'il ne s'occupe pas nécessairement des choses qui touchent les gens dans leur quotidien. Mm-hmm. Il s'occupe des grosses choses importantes, high level, sur la scène internationale. Mais il fait quand même des choses. Moi, c'est sûr que quand on parle de valeurs communes qui créent un Canada fort, je trouve qu'on oublie, tu sais, comme... on n'a pas juste des valeurs communes. Il y a une autre nation au Canada qui s'appelle le Québec. Et des fois, on a des valeurs divergentes aussi. D'ailleurs, notre loi sur la laïcité est devant la Cour suprême présentement. Faut-il le rappeler?
Et alors que la laïcité, pour moi, c'est quelque chose qui se doit d'exister et d'être présent au Québec.
Je pense que c'est une valeur fondamentale du Québec, et notamment sur la question de l'égalité homme-femme qui est très importante. Mais écoute, c'est correct, là, c'est un moment de, tu sais, où est-ce que tu as ton drapeau canadien dans les mains. Alors, je ne veux pas cracher dans la soupe, je vais écouter ce qu'il a à dire. Et honnêtement, je pense qu'on peut faire le bilan de la semaine de M. Carney de manière quand même assez positive.
Très positive,
Il ne nous a pas fait honte.
Non.
Ah, on en a eu des premiers ministres qui nous ont fait honte. C'était correct. Alors, je lui donne une bonne note pour cette semaine, mais il est quand même sous surveillance quand il me parle de valeurs communes avec le Canada et de son manque de sensibilité pour le Québec qui, malheureusement, transparaît souvent. Dernier point là-dessus, t'sais, il est allé en Chine. Moi, je suis une pragmatique. Je comprends qu'à un moment donné, il faut diversifier les marchés, même s'il se pose des questions avec la Chine. Mais il est revenu avec des ententes sur le grain. Ça, c'est l'Ouest canadien, c'est les prairies, c'est super. Il est revenu avec des ententes sur les automobiles. Il n'y avait rien pour le Québec, spécifiquement.
Alors que c'est le Québec qui l'a fait.
Il y avait les fruits de mer dans les maritimes. puis nous, ben nous, le, port, le port du Québec, nous autres, on sèche, tu sais.
Oui, bien justement, demain, 12h35, Irénée Rutema, notre chroniqueur, va être avec nous parce qu'il est à la conférence de Mark Carney cet après-midi. Il va nous faire un résumé. Et 13h demain, Joël Lightbound va être avec nous également en entrevue téléphonique. On va le questionner, justement, les investissements dans Capitale Nationale, le port de Québec, le projet QSL, le tramway. Parce que c'est beau parler, mais quand est-ce qu'on agit? C'est ce qu'on va regarder avec M. Lightbaum. Je termine, Antonine, avec le commentaire de Nadine. Allô, la gang, j'adore la réaction d'Antonine à propos de Justin Trudeau. Je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Il faut que tu en fasses plus souvent les montées de laine même, Antoine.
Une fois de temps en temps, sinon, ça a plus d'effet, tu sais, quand on se fâche à tous les jours.
T'as raison, quand on se fâche à tous les jours après nos enfants, ça a plus d'effet quand c'est une fois de temps en temps. Oh, boy! Là, il écoute.
Voilà.
Courte pause à l'émission d'En Jazz à Boulevard 101. Après la pause, deux choses. Steve Waterhouse qui va être avec nous pour parler de cybersécurité, le Canada champion mondial du vol de données. Ça me rassure pas pantoute, puis je suis certain que ça vous rassure pas non plus, auditeurs et auditrices de Boulevard. Et on va également avoir Karianne Bourassa en entrevue, députée de Charlevoix et de Côte-de-Beaupré. Elle a appuyé Bernard Drainville hier, on va parler de ça avec elle et on va également parler de nos deux montagnes de ski du Mont-Saint-Anne et du Massif qui passent des moments très difficiles. Donc, restez avec nous. C'est l'émission d'En Jase sur Boulevard 102. Oh oui, on jase à Boulevard 102.1 et on vous informe également de la meilleure façon qu'on le peut. Continuez à interagir au 418-971-1021. C'est super plaisant de vous lire. Je lis plusieurs textos en ondes. Et un endroit où il faut vous informer ce midi, c'est la circulation parce qu'il y a beaucoup de précipitations qui est tombée sur Québec dans un temps quand même assez raccourci. Notre invité Steve Waterhouse vient d'arriver en studio et il dit « Tabarnouche, on l'a pas salé pantoute aujourd'hui sur les routes. » Moi, je l'ai vécu ce matin à 5h15, c'était assez le bordel, ça glissait beaucoup. Donc Mathias, qu'est-ce qui se passe à la circulation?
Juste vous dire, présentement, il y a un ralentissement à Capitale direction Est, c'est entre Pierre-Bertrand et Boulevard Neuvial actuellement, le ralentissement. Également, Henri IV, il semble avoir une situation quand même assez problématique. Henri IV direction Sud, présentement, c'est entre... c'est entre Charret et ça remonte un peu, ça remonte jusqu'à la sortie pour le boulevard du Parc des Technologies. Il y a un ralentissement dans le secteur, il semble avoir un problème, j'ai pas encore les informations. Si vous en avez, 88-971-1021, on vous rappelle, faites attention parce que les artères principales présentement, toutes les artères principales de la ville de Québec présentement, c'est enneigé.
Ça va faire partie de l'émission de JE ce soir, 19h30 à TVA, le Canada champion du vol de données. Desjardins, Tigre Géant, Equifax, TransUnion, Bell Canada, Capital One, Petro-Canada, Canadian Tire, des ministères, des centres de services scolaires, des municipalités. Bref, on ne compte plus le nombre d'organismes et d'entreprises qui ont été victimes de vols de données. Et pour en parler avec nous, on a le meilleur intervenant, Steve Waterhouse, qui est spécialiste en cybersécurité. Steve, comment vas-tu?
Bonjour les gars, ça va?
Ça va. Ouais, Steve, comment ça on est rendu le pire de l'Atlas en vol de données au Canada? Qu'est-ce qui se passe avec nous?
Bien, parce que tout simplement, il y a un manque de leadership en termes de gouvernance pour avoir des lois qui sont fermes et surtout des conséquences. Quand les bandits se font attraper, puis c'est encore qualifié de voler de l'information, excusez le terme anglais, mais un soft crime, autrement dit, qui n'a pas de conséquences graves. Et là, ils s'en vont avec une tape sur les doigts, faire du temps, soit en dedans, même c'est rare qu'ils vont en dedans, c'est laisser aller. Et après ça, ça, c'est pour les lois ici qui sont faibles. Tous les criminels le savent. Mais surtout, ces moyens technologiques sont utilisés dans des lieux où il n'y a pas d'extradition judiciaire. Et donc, difficile d'aller porter une équipe d'enquêteurs avec Europol, Interpol, nommez-les, et d'aller les chercher parce que on peut pas. Les policiers d'ici ne peuvent pas aller les chercher. Fait que des fois, il y a des frappes internationales qu'on entend de temps en temps par toutes les associations de police internationales qui se mettent ensemble, donc Interpol, Europol, et qui en font des coups de filet. Tant mieux, puis la GRC, les corps policiers ici contribuent, ils participent. Tant mieux, félicitations. Mais c'est des enquêtes qui prennent des années à s'accomplir. On a vu la semaine dernière qu'il y a deux bandits qui se sont fait condamner dans l'utilisation, le recel d'informations à la suite de la fuite de Desjardins de 2019. OK, ça en est un rare qui a pu être judiciarisé. Mais les autres? Les autres sont laissés aller, les autres, on ne les voit pas. Et si les gens ne portent pas plainte, fondamentalement, Jeff, c'est ils ne sauront pas. Les autorités ne le sauront pas. Et ça, ça n'aide pas les enquêtes à démarrer.
Et qu'est-ce qui motive à ne pas porter plainte? C'est tout simplement que c'est des petits montants ou j'ai honte de m'être fait prendre?
Les deux, je te dirais. Ouais. Et aussi, un troisième, je te rajoute à ces raisons-là, les gens ne savent pas où porter plainte.
C'est vrai.
Parce que bien souvent, j'en ai entendu des cas que les gens sont venus me revoir et ils disent « Ah, aussi que je porte plainte, je vais au service de police, ils rient quasiment de moi quand j'y vais. » Puis je néglige pas le terme « ils rient de moi ». Parce que les services de police locaux sont souvent juste débordés avec les crimes traditionnels, on va dire de même. Fait que là, quand quelqu'un arrive avec une déposition, je veux faire une déposition, je veux avoir à faire plainte parce que je me suis fait voler ma carte de crédit, mon identité, etc. Mais déjà là, les gens arrivent avec la preuve fragmentaire. C'est dur de documenter ça pour le policier qui prend la déposition. Mais après coup, ils sont juste débordés. Fait que là, ils mettent ça sur la pile et éventuellement, quelqu'un va s'en occuper. Mais c'est là que ça marche pas, ça déraille. C'est un crime de personnifier quelqu'un d'autre, c'est connu, mais c'est là que lequel on priorise avant.
Est-ce que ça prendrait justement une organisation séparée ou une entité en quelque sorte? Non, pas nécessairement un embranchement ou que, OK, vous allez voir telle personne puis ils vont s'en occuper ou c'est plus de la sensibilisation auprès des travailleurs,
des
policiers?
À toutes les commissions, j'ai témoigné ici à Québec. J'ai dit toujours dans mes conclusions, il faut donner plus de ressources matérielles, financières, humaines et technologiques aux services de police pour qu'il y en ait une section à l'intérieur. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, quand une criminalistique qui est faite, donc une documentation en vue de judiciariser un cas, il y a une technique qui est applicable que si c'est pas bien fait, c'est pas recevable, la preuve va être rejetée. Fait qu'on retourne en case départ, on a frappé le serpent. Fait que c'est là qu'il faut que les corps de police mettent une emphase là-dessus parce que c'est une industrie. Il y en a, je lisais là, ce matin un article, une industrie de trillions de dollars. Ça, c'est 1000 milliards de dollars d'ici 2029. On est en 2026 déjà.
Oui, fait qu'on arrive là.
Fait que c'est mondial, premièrement, on s'entend, là. Puis après ça, ben, plus qu'on avance, la transformation numérique qu'on a fait depuis 20 quelques années, elle est mal faite parce que tout le monde s'est fait imposer d'utiliser la technologie, mais personne ne s'est fait montrer comment. Et les outils, imparfaits comme ils le sont, il y a un paquet de facteurs qui vont à ce moment-là venir compenser parce que c'est mal fait. Mais après ça, c'est là que les trous apparaissent et ceux qui sont vite et fins vont aller chercher ces vulnérabilités-là, les exploiter. Et dans l'ignorance des gens, parce qu'il y a un gros manque d'éducation et de formation, c'est là que les gens se font avoir. Je ne sais pas si tu as vu passer, il y a des vidéos quand même assez intéressantes là, de certains comptes Facebook rigodons. Là, que,
oui, oui, oui.
Ça, là, c'est de l'or en bas. Je le souligne parce que trois beaux vidéos qui ont circulé dernièrement, allez voir ça sur Facebook. Je les ai pas placées sur mes médias sociaux parce que c'est un langage comme on parle aujourd'hui et ça attire justement l'attention sur « faites attention quand vous faites des achats en ligne, qu'est-ce que regardez? » Il y a des trucs là-dedans, là. C'est vraiment le fun. Autant que c'est humoristique, mais l'information de base, elle est là. Et c'est ça qu'il faut continuer à faire pour que les gens, à un moment donné, là, ça devienne naturel qu'on fasse attention.
Pour rappel, on parle avec Steve Waterhouse, spécialiste en cybersécurité et ancien officier des Forces armées canadiennes. On parle du Canada qui est le champion des vols de données. Steve, personnellement, qu'est-ce que je peux faire justement pour me protéger davantage d'un futur vol d'identité ou de mes données personnelles?
Il faut commencer par arrêter de mettre de l'information partout et questionner. Pourquoi faut que je vous donne cette pièce d'information? Pourquoi faut que je vous donne mon numéro de téléphone si j'achète? Parfait. Je dis toujours mon exemple, j'achète une simple paire de bas. Tu sais, ils sont rendus à 10$, c'est une paire de bas. Mais là, tu viens pour payer, bien là, j'ai besoin de votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse, votre courriel, etc. J'ai pas besoin de ça. Je veux juste payer l'achat que je suis venu faire ici, d'a-t-il. Parce que quand vous commettez de l'information qu'il n'y a pas d'affaires à sortir, eux autres étant les compagnies, les commerçants, c'est dans leur rôle de faire ça. Parce qu'ils vont aller revendre cette information. Il faut en parler dans les chasses de char juste après. Et après coup, vous allez recevoir la publicité indirecte. Mais en même temps, quand il y a des fuites d'informations de ces compagnies qui ont perçu votre information, vous l'apprenez souvent par la bande, c'est ça qui est l'enfer, et après ça, vous allez subir, ben justement, d'autres sollicitations, soit par SMS sur le téléphone, par boîte vocale. Aujourd'hui, on est rendu là avec l'intelligence artificielle qui imite très bien la voix d'un particulier, par courrier électronique, et c'est là que ça se propage. Et on a vu Jeff dans le temps, c'est pas dans l'immédiat que ça se fait. Il y a des fois que oui, mais je peux te donner des cas très simples que 5 ans, 6 ans après que les fuites de données ont eu lieu, exemple Desjardins,
oui.
Ben, ça a été réutilisé, puis les gens s'en doutaient pas. Ça, ils n'ont pas vu ça que ça arrive.
On a laissé passer le temps, autrement.
La poussière a tombé.
Ouais. Puis là, j'ai baissé ma garde, puis pac, je me fais pincer dans
c'est
le détour.
C'est une des stratégies qu'ils prennent.
Tu m'as fait une belle passe à la palette en termes d'hockey. Tu dis, je vais t'en parler d'un char. Ben justement, rentrons là-dedans.
Ouais.
Entente historique entre le Canada et la Chine. Et là, ça amènerait des voitures électriques chinoises sur le marché canadien. Avec ce qu'on sait de l'historique de la Chine en matière d'espionnage, est-ce qu'on se met encore plus à risque au Canada?
Définitivement. Juste une phrase à vous dire, rappelez-vous de Nortel. Partant de ça,
ouais.
On s'en va où avec? Ben, pourquoi que en mai 2022, le gouvernement libéral du temps a commencé à dire qu'il faut bannir Huawei, faut bannir ZTE dans la téléphonie 5G, mm-hmm. mais aussi dans la téléphonie portable. Bon, mais pourquoi? Là, est-ce que le risque a changé? La réponse, c'est non. Parce que le Centre canadien de la cybersécurité et les autres agences de renseignement ont mis toujours le rapport à jour disant, et le ministre Carney l'a répété il n'y a pas longtemps, la course à la chefferie, plutôt électorale,
oui.
C'est la Chine demeure une menace. Mais là, tout d'un coup, il s'en va faire des ententes avec la Chine, puis là, tout est correct, on est des amis. Non, 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 un peu. Là. En arrière, le Parti communiste chinois demeure toujours une menace dans la façon de faire, très subtile dans ses approches, et par l'utilisation de la technologie, par les voitures, bien, il va compléter à faire ces approches-là. Mais là, attention, il ne faut pas paniquer parce que c'est des voitures chinoises qui apparaissent. Saviez-vous que GM s'est fait taper ses doigts en 2017 parce qu'il écoutait le monde à l'intérieur des véhicules?
Hey, je savais pas ça, raconte-moi ça un peu.
GM, avec OnStar, la semaine passée, ouais. Le Federal Trade Commission aux États-Unis, le FTC, qui s'occupe des anicroches commerciales, bien, ils ont encore une fois tapé ses doigts fort. Eux autres, ils frappent fort. Puis, il y a des sanctions importantes à poser à GM parce qu'ils... Avec l'information qu'ils captent dans les véhicules modernes, en passant, c'est nord-américain, asiatique, européen, les véhicules aujourd'hui, c'est des ordinateurs à quatre roues. Bien, parce que GM, eux autres, ils ont revendu ces données-là, c'est pour ça que je te faisais la passe. Bien, c'est là que, à un moment donné, les gens se sont plaints. Ils disent, hey, comment ça que GM revend ça? Parce que, où est-ce que c'est intéressant de revendre les habitudes de conduite de quelqu'un? Bien, une compagnie d'assurance, parce qu'après ça, il va te charger en fonction de ce qu'il fait.
Oui.
On l'a entendu ici, Desjardins, qui a fait ça avec Jacques Justeau, juste pour nommer celui-là. Puis pour sauver 50$ ou même 25$, il y en a un qui l'a fait le test, puis il me l'a dit, là, pour 25$, ma vie privée, je l'ai donnée complètement à Desjardins. Puis là, après ça, il vient m'écœurer dans mes habitudes de conduite.
Oui, puis dans tes habitudes de consommation aussi, parce que là, il entre justement.
Ça va.
Avec tes données, il est capable de retracer plusieurs de tes comportements.
Et voilà. Fait que tu sais, il y a un paquet de croisements, comme tu as si bien dit, que les gens ne s'en méfient pas. Donc, en absence de cette éducation, les gens abdictent parce qu'il y en a trop, c'est complexe, mais il faut en même temps, juste encore une fois, poser des questions, mm-hmm. Jeff, parce que sinon, si on abdique, on baisse les bras, on dit « Ah, on laisse ça aller », bien, c'est de même qu'on va s'en aller. Puis, pas loin en arrière, quand on dit que les voitures chinoises vont apparaître, bien, moi, tout de suite, je vois un système de crédit social que la Chine a depuis une dizaine d'années et que... Il récompense les bons citoyens qui écoutent, qui critiquent pas, qui traversent au bon coin de la rue en donnant des permissions, des bonbons à la société. Ils peuvent prendre l'avion, prendre le train, acheter des chars, acheter des maisons, etc. Alors ici, nous autres, on a juste le dossier de crédit qui, ouais. Des fois, il est entaché. Mais si ça s'en va vers le crédit social chinois, ouais. Avec tous les outils chinois qui peuvent rentrer sur le marché ici, c'est là que ça va donner certaines façons de vivre qu'on veut pas.
En effet. Steve Waterhouse est spécialiste en cybersécurité, ancien officier des Forces armées canadiennes. Steve, super content de t'avoir rencontré en personne.
Pareillement.
Merci d'être passé en studio. On s'en reparle bientôt parce que je suis certain qu'avec les voitures chinoises, on va avoir pas mal de questions pour toi.
Absolument.
Je suis convaincu de ça. Merci, Steve.
À
salut.
Bientôt.
Le midi. On a...
Émission On en jase. On vient de parler cybersécurité avec Steve Waterhouse. Est-ce que vous vous sentez en sécurité avec l'arrivée des voitures chinoises? Est-ce que vous vous sentez en sécurité avec des policiers qui sont débordés par les crimes de vol d'identité? Textez-nous au 418-971-1021. Dans 10 minutes, point de presse de la Coalition Avenir Québec où on va justement parler et confirmer les règles pour entrer dans la course à la chefferie de la CAQ, et pas juste la course à la chefferie, Mathias, la course au premier ministre aussi, parce que la personne va devenir automatiquement premier ministre à compter du 12 avril prochain. Et pour en parler avec nous, on a la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Karianne Bourassa, qui a donné son appui hier à Bernard Drainville. Madame Bourassa, merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui à l'émission On jase.
Bien, ça fait plaisir. Bonjour.
Bonjour. Madame Bourassa, en premier lieu, avant de parler de la course à la chefferie, là, j'ai appris quelque chose de personnel à votre effet. Apparemment, vous êtes une grande fan de football.
Oui, écoutez, c'est une religion chez nous. Mon fils s'appelle Madden pour John Madden.
Ah.
Bon, les amateurs de football le connaissent et je suis une fan des Packers.
Une fan des Packers. Donc là, vous avez vécu une défaite difficile contre les Bears de Chicago.
On avait beaucoup de blessés quand même, mais écoutez, bon, on va se consoler avec d'autres équipes. La saison est finie, mais oui.
C'est ça. Moi, je suis un fan des Giants de New York et là, j'ai beaucoup d'espoir avec l'arrivée de John Harbaugh à titre d'entraîneur-chef de mes Giants. Je vois un bel avenir pour mon équipe. Qui va gagner le Super Bowl, selon vous, dans les quatre équipes qui restent?
Oh, bah, je ne m'avance pas là-dessus.
Non? Moi, je vais y aller avec les Rams de Los Angeles. Je trouve que Matthew Stafford est sur une saison assez extraordinaire. Revenons à la politique québécoise. Pourquoi avez-vous décidé d'appuyer Bernard Drainville, le député de Lévis?
Bien, d'abord, moi, je suis la plus jeune femme du caucus de la coalition. Puis, je regardais, j'ai parlé à tous les candidats, bien sûr. Puis, les gens le savent, j'ai été adjointe à Simon-Jolin Barrette pendant près de 3 ans aussi. Donc, je suis quand même près de lui. Mais j'ai vraiment écouté les idées de chacun. Et je veux dire, Bernard, c'est le premier qui m'a parlé de famille. Puis, c'est pas anodin. On le sait, là, j'ai un bébé d'un an. J'ai eu mon premier enfant là, pendant la législation. C'est le premier qui m'a dit, faut remettre les familles, la préoccupation des familles au sein de la préoccupation du gouvernement. On parle d'acheter sa première maison, on parle d'éducation. Tu sais, moi, j'ai vu, puis je pense que vous en avez parlé aussi un peu, le Collège des Hauts-Sommets à Saint-Tite-des-Caps, ici dans ma circonscription, qui menaçait de fermeture. C'est avec Bernard Drainville qu'on a réussi à sauver l'école et je l'ai vu s'impliquer, mon Dieu, avec tellement d'intensité. On peut lui reprocher, hein. Parfois, il y a des gens qui disent qu'il est très intense, mais des fois, en politique, ça peut être également un atout.
Autre que des familles, est-ce qu'il vous a parlé d'autres potentielles idées, comme par exemple un troisième lien à l'Est?
Ah, c'est sûr. Je connais déjà Bernard Drainville. C'est sûr qu'on est, on n'est pas si loin. On travaille ensemble à l'Assemblée nationale. Je connais très bien son idée sur le troisième lien. Donc, ça n'a pas été un élément de discussion ou un élément. J'étais déjà convaincue que s'il devient chef, il va aller de l'avant avec le troisième lien. Mais assurément, ça fait partie des raisons pour laquelle j'ai décidé d'appuyer un candidat des régions. Moi, je l'ai toujours dit, j'ai une grand-mère en Mauricie, qui est maintenant Shawinigan, mais qui est tout petit. J'ai 27 municipalités, ma plus petite municipalité dans la circonscription, il y a environ 160 personnes. Donc, les besoins, la réalité des petits villages, j'ai besoin de quelqu'un qui comprend ça, qui comprend les petits entrepreneurs, qui comprend aussi la réalité, le trafic, la vie que vivent les gens en région et plus vers Québec. Donc, je pense que ça allait de soi... avant même, parce que sa candidature n'est pas annoncée, mais moi, je le pousse à se lancer. J'ai dit, s'il le fait, je serai derrière lui.
Justement, parlant de votre région, il y a deux montagnes de ski présentement qui vivent des problématiques. Je commencerai avec le Mont-Saint-Anne, où on discute avec la compagnie RCR. Là, RCR est sorti cette semaine pour dire, on va investir dans les nouvelles télécabines avec le 50 millions du gouvernement. Mais ce que je comprends, c'est que ce 50 millions-là n'a pas été encore offert à RCR.
Ben écoutez, ils ont fait leur communiqué seul. C'était pas un communiqué conjoint avec le gouvernement. On n'était pas partie prenante de cette annonce parce que nous, de notre côté, il n'y a rien qui change là. Il n'y a rien de différent de décembre 2025 quand on a dit que tout était sur la glace et qu'il n'allait pas avoir de versement de 50 millions.
Donc, le lien de confiance est encore brisé entre le gouvernement et RCR.
Puis je dois dire peut-être plus encore avec moi, tu sais, on en parle dans les médias, au cours des dernières semaines, des derniers mois, parce qu'il y a eu des problématiques, mais moi je suis députée là depuis presque 4 ans, ça fait 4 ans qu'on essaie de les convaincre d'investir, ça fait 4 ans qu'on leur dit qu'il faut mieux entretenir les infrastructures, ça fait 4 ans qu'on leur dit qu'il faut améliorer les liens de confiance avec la population, donc nous ce qu'on a dit c'est on sera certainement pas les premiers à décaisser, ce qu'ils ont annoncé c'est leur plan, on leur avait demandé pour quand même donner à César ce qui est à César, on leur avait demandé de faire preuve de plus de prévisibilité. C'est ce qu'ils disent qu'ils font en présentant ce plan-là. Mais comme j'ai mentionné, le gouvernement ne sera pas les premiers à décaisser.
Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que avec la gestion est critiquée par les usagers. Présentement, du côté de RCR, on semble avoir de la difficulté à collaborer avec le gouvernement du Québec. Qu'est-ce qu'on fait si cette collaboration-là s'améliore tout simplement pas?
Ben moi, j'ai toujours été claire. J'étais très intéressée à l'idée d'explorer l'expropriation. C'est également, moi, les dernières nouvelles de mon gouvernement, et on s'est parlé hier, toutes les options étaient encore sur la table. Donc, nous, on n'a pas évoluer, progresser. Il y a encore des analyses qui sont en train d'être faites. Vous savez, c'est un contrat qui est bien simple que plusieurs disent, mais justement, en étant très simple, il est très compliqué. Il faut le tourner de tous les côtés pour voir si on a justement une poigne et une justification. pour cette option. Donc, les analyses sont pas terminées. Puis, l'annonce qu'ils ont fait, ben, ça leur appartient. Mais nous, de notre côté, il n'y a rien qui a changé.
À quand une décision du côté du gouvernement?
Ah, mon Dieu. Je travaille très fort pour qu'on obtienne cette réponse.
Excellent. Autre dossier, c'est la montagne du massif de Petite-Rivière-Saint-François. On est dans les négociations de la dernière chance. Les employés syndiqués, présentement, sont en train de voter sur une entente qui a été justement érigée par le conciliateur. Dans les coulisses, vous entendez quoi? Est-ce que vous avez bon espoir que ça se règle aujourd'hui?
Écoutez, vous vous souvenez quand le massif a annoncé le 20 janvier qu'on allait fermer la saison? Moi, j'étais la première à quand même sortir et à dire non, j'y crois. Là, même si vous avez dit ça, il reste du temps, il reste encore un espoir. J'avais demandé d'arrêter de prendre les citoyens en otage. Alors là, je retiens un peu mon souffle. J'ai comme un devoir de réserve. Je veux rien dire qui pourrait envenimer la situation. On est tellement chanceux que les deux parties aient accepté hier de refaire une séance de négociation. Il y a eu effectivement une proposition du conciliateur, une recommandation. Les employés vont voter aujourd'hui. C'est un vote qu'on nous dit secret. Là, on essaie d'avoir un peu d'informations, mais tout dépend là, de ce vote-là. Si vous saviez le nombre de commerçants qui appellent à mon bureau, les gens qui ont des Airbnb, qui veulent savoir c'est quoi la suite, là. Mm-hmm. Si ça ferme, c'est vraiment l'industrie touristique au complet. Comme je le disais dans des entrevues hier, on a mis tellement d'argent pour faire de Charlevoix la destination hivernale touristique par excellence. On disait aux gens de venir, qu'on avait la meilleure qualité de neige, qu'on avait également la meilleure montagne. Ça nuit à la réputation de tout ce qui se passe en ce moment.
Karianne Bourassa est députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré pour la Coalition Avenir Québec, une grande fan de football. On vous remercie infiniment d'avoir participé à l'émission On en jase ce midi. Puis on se reparlera avant le Super Bowl. Tiens, on se fera une petite chronique football pour le fun.
Parfait, avec des prédictions plus assurées.
Excellent. Merci beaucoup, Mme Bourassa, pour votre temps aujourd'hui.
Au revoir.
Au revoir. Merci beaucoup. Karianne Bourassa qui appuie Bernard Drainville. Moi, j'aime beaucoup son discours par rapport au Mont-Saint-Anne. On sent que si la décision lui appartenait à RCR, ça serait out. Vous avez eu vos trois prises et on y va avec justement une entreprise qui est ici au Québec qui va reprendre le contrôle de cette montagne-là.
Vous avez eu vos trois prises. J'irais presque jusqu'à dire vous avez eu six prises à un moment
donné. Oui, c'est ça. Écoute, les 27 retraits sont faits dans le match.
C'est ça, exact. Je veux juste rajouter une petite précision concernant le massif de Charlevoix, là, parce que je pense que beaucoup de personnes retiennent leur souffle, autant des skieurs que des habitants et des commerçants du secteur. L'entente, normalement, les résultats par rapport au vote, selon les informations que j'ai obtenues, on va les savoir d'ici la fin d'après-midi, normalement en mi-après-midi. Donc, au cours des prochaines heures, normalement, on est censé savoir si, est-ce que, miraculeusement, cette situation-là va se régler ou si, malheureusement, le massif reste fermé pour cette saison.
Donc, excellente raison de demeurer à l'écoute de Boulevard 102.1 et d'écouter le retour de Gravel avec Denis, Véro et Audrey, car vous allez avoir l'information précise à propos du vote des employés syndiqués. Je souhaite vraiment que les employés syndiqués disent « OK, là, ça vient du conciliateur, cette entente-là. C'est la meilleure entente qu'on peut aller chercher. Retournons au travail et sauvons cette région-là. » J'espère qu'on va avoir cette grandeur d'esprit-là du côté des employés syndiqués et de la partie syndicale qui est sous la frélude de la CSN. Courte pause à l'émission Nangeas sur Boulevard 101. Par la suite, on parle avec Rémi Villemur. Il va entre autres nous parler pourquoi il commence à ignorer Donald Trump dans l'actualité.
OK.
J'ai hâte qu'il nous jase de ça, parce que moi, je suis pas capable de l'ignorer.
C'est difficile.
Je trouve ça très, 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 très difficile, surtout quand il parle d'envahir des territoires. De la misère à ignorer un personnage politique qui veut faire ceci. Donc, j'ai hâte d'entendre Rémi Villemur sur nos ondes après cette courte pause à l'émission On en jase.
Jusqu'à 14h, On en jase.
Émission On en jase sur Boulevard 102.1, 418-971-1021 pour interagir avec nous. Vous êtes vraiment plusieurs à le faire. Julie, qui a mentionné justement par rapport à Francis Tremblay, Mathias, qu'on a effectué son petit bout humoristique, oui. Le candidat dans Chicoutimi de la CAQ, elle dit, ben là, pourquoi pas, Justin Trudeau faisait bien de l'humour avec Jean-René Dufort. Justin Trudeau faisait de l'humour tout court.
Ouais, j'ai envie de dire, Justin Trudeau, c'était de l'humour.
C'est juste qu'il ne savait pas. Alors, continuez à interagir avec nous. BLVD.fm, les meilleurs moments de l'émission vont se retrouver là-dessus, notamment notre entrevue qu'on vient d'avoir avec Karianne Bourassa, très, très, très intéressante, où on comprend que la CAQ et RCR, ça fait plus bonne équipe. Donc, d'après moi, on va avoir des nouvelles que RCR ne sera plus gestionnaire du Mont-Saint-Anne d'ici peu. Ça inclut également la web radio, le BLVD.fm, notre application Boulevard 102.1 est disponible App Store, Google Play Store, meilleure façon de nous écouter. twitch.tv/blvd.fm. Vous êtes plusieurs sur Twitch. Donc, vous avez un beau débat sur l'espionnage des véhicules. Continuez comme ça à interagir. Également, abonnez-vous à notre page YouTube. Vous avez notamment les podcasts des grands événements avec Denis Gravel. Il va y avoir les podcasts hors série aussi qui vont débuter dans la semaine du 1er février. Et le 2 février, c'est un podcast que j'ai enregistré avec mon cousin Eric où on revient sur nos tentatives de suicide. Donc, l'objectif, c'est de parler aux gars là, qui ne parlent pas. Puis qu'au lieu de se rendre aussi loin que moi et Eric, on s'est rendu, ben, c'est de faire en sorte qu'on demande de l'aide. On a pour objectif de sauver au moins une personne. Je suis convaincu qu'on va réussir à le faire. Avant de passer à Rémi Villemur, Mathias, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité? Là, notamment, la CAQ est en train d'envoyer, de parler, de confirmer ses règles pour la course à la direction du parti. Mark Carney va venir se présenter au Lutrin à Québec pour faire sa conférence de presse. Je le rappelle, Irénée Rutema va être avec nous demain à 12h35 pour nous parler de ceci. Joël Lightbomb va être en entrevue également avec nous aux alentours de 13h. Mais sinon, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Oui, bien, ça brasse à Québec. On parle des règles de la CAQ pour la prochaine course à la chefferie. Juste rapidement, la course à la chefferie de la CAQ qui se terminerait le 12 avril prochain. Donc, on connaîtrait à ce moment-là le nouveau premier ministre du Québec. Pour participer à la course, tous les candidats devront déverser 30 000 $, recueillir 1 000 signatures des membres de la CAQ. La CAQ dans 75 circonscriptions différentes. Et ce qui surprenait le plus et qui sera probablement le plus difficile pour les candidats qui voudraient se présenter, c'est recevoir l'appui de 15 députés présentement élus du côté de la CAQ. On va suivre ça au cours des prochaines minutes si on a des détails supplémentaires, mais c'est sûr qu'au cours des prochains jours ou de la semaine prochaine, on va avoir certaines candidatures qui devraient commencer à se porter. Également, t'en as parlé, Mark Carney, qu'est-ce qui va ressortir de ce discours-là? Question se pose. Une chose est sûre, c'est Jean-François Simard a envoyé une lettre à Joël Lightbound pour mettre de la pression concernant le financement du tramway. On veut que le gouvernement fédéral revienne à 40% des coûts du tramway qui est présentement chiffré à 7,6 milliards. Donc, on passerait de 1,44 milliards à 3 milliards. Donc, Mark Carney qui va faire un discours. Est-ce qu'il va en faire mention? Ce serait bien étonnant. Mais une chose est sûre, on va suivre ça de près. Et ce qu'on va suivre de près également, c'est des négociations massives de Charlevoix parce que d'ici la fin de l'après-midi, normalement, on devrait avoir le résultat du vote des employés syndiqués concernant l'offre finale de l'employeur dans le but de sauver la saison de ski au massif.
Il est avec nous à chaque mardi et à chaque jeudi aux alentours de 13h, 13h10. Il est animateur au 99.5 Montréal du lundi au jeudi de 18h à 19h et le samedi matin en compagnie de Jacinthe Varel de 8h à 10h. On rejoint l'excellent Rémi Villemur. Rémi, comment vas-tu?
Ça va super bien, les gars, vous deux.
Ça va super bien. Rémi, Mark Carney se prépare à faire une allocution et il réunit son cabinet des ministres dans la capitale nationale à Québec. Mais ce qui retient l'attention avec Mark Carney, et même si ça fait déjà 48 heures, c'est son discours très pragmatique, très précis à Davos.
Oui, puis moi, ce qui m'intrigue, c'est les raisons de cette fascination qui persiste pour ce discours-là. On n'est pas habitué de voir un premier ministre du Canada aller à l'étranger ou même sur place prononcer un discours pareil. Chantal Hébert, avec qui je partage beaucoup de désaccords, mais dont je respecte quand même l'expérience et le parcours dans le journalisme, elle a dit qu'elle n'a jamais vu. Et de son vivant, elle ne se rappelle pas d'un discours aussi magistral. Donc, elle fait quand même un travail de couverture journalistique depuis les années Mulroney. Là, il y en a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts. Donc, je pense qu'il faut qu'on mesure jusqu'à quel point ce discours-là était effectivement un grand discours. Puis, je pense qu'il y a des ingrédients de la réussite de ce discours-là qui se trouvent simplement dans le fait, c'est tout simple, c'est banal, vous me direz peut-être, les gars, mais dans le fait que c'est lui qui l'a écrit. Le discours. Généralement, un discours de premier ministre, c'est écrit par des conseillers politiques quand ce n'est pas écrit par des gens dont le travail très précis, la fonction est d'écrire des discours. Et souvent, il y a plusieurs mains à l'intérieur d'un même discours. C'est pour ça que quand on l'écoute, ben, ça n'a pas l'air d'être une œuvre en soi. Puis on n'a pas, de toute façon, l'intention que c'en soit une parce qu'on veut communiquer des idées. Mais Mark Carney, hein, à qui on ne reconnaissait pas ce genre de qualité-là, on disait que c'est un homme très discret, ça a l'air d'être un technocrate. Au niveau du charisme, on n'était pas impressionné. Il y a des vidéos de lui qui circulaient où il dansait le soir de sa victoire avec les coudes dans les airs. On disait « bo-boy hein? ». On est loin de Justin Trudeau. Et là, il arrive avec un discours qu'il écrit lui-même. Et ça se sent, ça s'écoute, parce que dans le texte, on sent... Déjà, il lit pas une feuille.
On sent l'émotion.
Ben, on sent en tout cas que ça vient de lui. C'est mâché, c'est bien mâché, parce que ça vient de sa tête et ça se transporte jusque dans la foule. Il y a ça, premièrement, qui, à mon avis, fait en sorte qu'on comprend que c'est un discours qui n'est pas comme les autres. Mais ce qui l'a rendu aussi important, ce discours-là, vous me direz peut-être que c'est tout aussi banal, mais il faut quand même le nommer. C'est qu'il a dit quelque chose de vrai. Hein? Ça, oh, peut-être que là, vous me direz, bah, il est démagogique aujourd'hui, Rémi, mais il y a beaucoup de discours de politiciens, sans dire qu'ils nous mentent, c'est pas ça que je dis, mais c'est pas vrai. Hein?
On camoufle la réalité ou on embellit la réalité dans ces discours-là.
On tourne en rond, on essaie de ne pas nommer les choses.
Les grandes phrases creuses.
Exactement. Puis c'est très, finalement, calculé, mathématique, mise en scène. Et là, ce que Mark Carney nous a dit, c'est, regardez, inutile de regretter le monde d'avant, OK? Perdons pas de temps, ce monde-là n'existera plus. Alors là, il y a des deux catégories de personnes. Il y a ceux qui regardent par en avant, puis il y a ceux qui regardent par en arrière. Puis ceux qui regardent par en arrière, ils restent allés à la position actuelle. Il a dit, si vous voulez venir autour de la table, vous ne serez pas au menu. Donc, un réalisme politique, une lucidité qui nous fait finalement nous rappeler que le monde, et checkez bien ça les gars, est tragique. Il y a des gagnants, il y a des perdants. Mm-hmm. Il y a des forts, il y a des plus faibles. Il y a des dominants, il y a des dominés. Et ça faisait longtemps qu'on ne nous l'avait pas dit. Et ça fait du bien finalement de se faire parler comme du monde, comme du vrai monde.
Ben oui, puis de se faire dire la vérité. C'est-tu moi qui en mets trop, Rémi, ou pour le 12-15 minutes que son allocution a duré? J'avais l'impression que le Canada était en train de prendre le contrôle du monde. Puis là, je m'explique, t'es Mark Carney livrait des grands pans de sa réflexion et de comment il voyait l'économie canadienne s'imbriquer avec l'économie européenne. J'ai eu l'impression pendant 12-15 minutes qu'on contrôlait la destinée du futur.
Ouais, je pense que tu exagères un peu.
Ah oh, ouais, j'exagère!
non, mais écoute...
C'est mon patriotisme canadien, mon drapeau était pas loin.
Ouais. Non, ben écoute, je pense que justement, Mark Carney veut qu'on comprenne que ça n'arrivera pas. C'est-à-dire qu'il nous l'a dit sans les nommer. Hein. Apparemment, j'ai pas écouté le discours dans son entier, mais apparemment qu'il n'a jamais nommé les États-Unis. Il n'a
jamais
dit United States of America ou États-Unis. Bon, c'est quand même assez fort. Donc, mais on a bien compris qui étaient les plus puissants. Et les plus puissants, ben c'est le Canada n'en fait pas partie. Mais selon lui, le Canada doit quand même pas lâcher le morceau. Je pense qu'il aurait pu, s'il n'avait pas été premier ministre, s'il avait été un analyste politique, s'il avait été un essayiste, un philosophe, il aurait dit, ben, on ne sortira pas gagnant de ça, hein, parce que c'est la vraie vérité, c'est la vérité qu'on ne peut pas quand même demander à un premier ministre de dire publiquement, surtout quand il a ce titre-là. Mais le Canada doit savoir qui sont ses alliés, savoir qui peuvent s'inscrire dans la même lignée que lui, le Canada. Et il faut simplement s'asseoir avec des gens qui ont des intérêts communs. C'est tout aussi simple que ça. Puis il faut aussi savoir, si ce n'est pas déjà su, mais je pense qu'ils le savent, que Donald Trump est imprévisible. Du jour au lendemain, il peut nous emmener ailleurs. Donc à un moment donné, il faut commencer à construire sur ce que l'on peut anticiper. Ce que l'on ne peut pas anticiper, ben, ça sème la panique, mais la panique, ça nous stalle, exactement.
Parlant des États-Unis de Donald Trump, ton deuxième sujet pour nous aujourd'hui, c'est... Comment je commence à ignorer ce que Donald Trump fait? Et là, je veux que tu me coaches parce que moi, en grand démocrate, je m'attarde à Donald Trump parce que je veux pas que des personnages politiques comme ça prennent à nouveau le plancher des États-Unis. Pourquoi, toi, tu choisis l'ignorance?
Ben, c'est-à-dire que je pense qu'il va falloir... Là, ça fait deux mandats, là, c'est-à-dire un mandat au complet puis un an d'un deuxième mandat. On commence à comprendre le personnage. Je pense qu'il va falloir commencer à, non pas l'ignorer, mais à prendre un peu de distance par rapport à chacune des choses qu'il dit dans l'espace public. On a eu un exemple frappant avec le Groenland. Le Groenland, il a dit « je vais faire ça ». Et là, du jour au lendemain, il a dit « c'est beau, je me suis entendu, je ne le ferai pas finalement ». Puis on n'en parlera même plus. Il a dit « l'entente que j'ai signée avec le secrétaire de l'OTAN, c'est une entente à vie ». Donc, normalement, on n'en entendra plus parler. Mais jusqu'à quel point sa parole vaut quelque chose? Ça vaut rien, en réalité. Donc, cet homme-là a besoin d'attention. Son carburant, c'est l'attention. Tu as raison, Jean-François, de dire il faut quand même écouter le président des États-Unis. Hein, j'en vois pas le signal contraire. Il faut porter attention à ce qu'il est et à ce qu'il dit. Mais il y a eu des présidents dans l'histoire de l'humanité qui ne carburaient pas autant à l'attention, qui avaient des velléités semblables aux siennes, qui avaient des projets ravageurs comme le sien. mais qui avait de vrais objectifs, alors que Donald Trump, on réalise qu'il lance quelque chose dans l'air, ça sème le chaos et il construit à partir du chaos. Mais si on ne l'écoute plus, ou en tout cas si on fait attention, on fait un petit effort collectif de lui accorder moins d'attention, ce serait déjà un départ. Lui, il n'y en a plus de carburant. Il carbure à ça. Si quand il dit « je vais envahir le Groenland » et personne panique, qu'est-ce qui va se passer? Pensez-vous vraiment qu'il va l'envahir? On n'a pas pensé poser la question à des militaires. Il y a des militaires, moi, que j'ai interrogés qui m'ont dit « on n'a jamais cru une seule seconde qu'il allait faire ça. En tout cas, pas avant l'été. C'est pas possible d'envahir le Groenland comme ça. C'est un territoire qui est particulier. Les soldats ne sont pas entraînés. Ça prend un certain type d'avion pour aller dans un climat pareil. » Nous autres, on a entendu « invasion Groenland » et on s'est dit « oh, c'est possible qu'il le fasse. » Alors lui, il a construit à partir de cette désorganisation-là. Mais si on lui accorde moins d'attention, il n'y a plus le terrain de jeu sur lequel il est habile parce qu'il n'y a plus d'attention.
Donc l'idée, c'est au lieu de s'attarder aux paroles et aux menaces de Donald Trump, s'y attarder, mais seulement quand il y a une action concrète qui est posée.
Bien, en fait, on va être réaliste, là. Les gens qui habitent au Groenland, quand il a dit qu'il allait les envahir, je les comprends, mais comme à 100 000 % là, d'avoir paniqué. Mais les Canadiens, je ne comprends pas pourquoi ils ont paniqué. On commence à le comprendre, le personnage. Donc, il ne suffit pas de déployer autant d'attention. Il suffit de dire, bon, ben, c'est encore une frasque, c'est encore un truc qu'il lance comme ça pour paralyser la presse, pour paralyser les discussions, les alliances, les accords, les forums, les conférences internationales. Essayons, au moins. Hein? On a essayé le contraire, là. On a essayé de le prendre au sérieux à chaque fois. Puis, 9 fois sur 10, c'était du trolling. Donc, essayons autre chose. Essayons de lui accorder moins d'attention, hein, parce que c'est compliqué de lui accorder aucune. Accordons-lui moins d'attention, on verra ce que ça donne.
Ouais, je n'aille pas ton pari, justement, de dire hey, si Emmanuel Macron, Mark Carney, Keir Starmer faisaient pas toujours un geste à chaque fois que Donald Trump parle, ben peut-être qu'il parlerait moins et qu'il agirait moins par la force des choses.
Ben, il ferait autre chose. Il se concentrerait sur sa politique intérieure. Il se concentrerait sur... Parce qu'il y a des élections de mi-mandat qui s'en viennent en novembre, lui. Mm-hmm. Il va falloir qu'il livre la marchandise aux Américains sur plein d'enjeux qui n'ont rien à voir avec l'invasion de tel territoire ou l'invasion de tel autre territoire.
Rémi Villemur, c'est toujours un bonheur de te parler à chaque mardi et jeudi. Tu m'amènes toujours à réfléchir différemment. Tu sais, je te le dis. Puis là, tu m'amènes vraiment à réfléchir sur Donald Trump. Je te remercie beaucoup pour cette période de réflexion. J'ai pas besoin d'un psychologue. Mathias, Jérémy Villemur.
Je charge un peu moins cher.
Ben, exactement. Hey, bonne émission ce soir sur les ondes du 99.5 et au plaisir de se parler mardi.
Bye-bye. Bye-bye à vous deux.
Salut Rémi, merci. C'était Rémi Villemur, excellent animateur au 99.5 Montréal, un jeune en pleine ascension dans les médias. Si vous ne le suivez pas, commencez à le suivre sur les différents médias sociaux également, sur son podcast, sur la plateforme Il reste du monde. C'est vraiment des podcasts fort intéressants.
Oui, juste vous dire, juste vous faire un rappel, en fait, sur les routes, c'est encore pas beau. Ça roule lentement un peu partout du côté de la ville de Québec, même si on n'a pas de ralentissement majeur. Mais toutes les artères principales de la ville de Québec ne sont toujours pas bien déneigées pour l'instant.
Mathias, est-ce que le Canadien l'emporte ce soir face au Sabre de Buffalo?
Ben, on croise les doigts pour oui. Moi, j'ai espoir. Je m'attends à une victoire de 4-2 du Canadien. Du moins, c'est ma prédiction. Une chose est sûre, c'est qu'on va avoir un bon match. Si le Canadien sort fort ce soir, on a deux équipes qui sont jeunes, deux équipes qui sont rapides. On peut avoir un match très excitant à regarder. Par contre, il faut faire attention au Sabre. On l'a vu dans le dernier match. Ils sont excessivement dérangeants. Utilise beaucoup de bâtons pour venir déranger l'adversaire pour rapidement récupérer des rondelles. On a vu un Tage Thompson en feu lors du dernier affrontement face aux Canadiens. On va espérer qu'il soit un peu plus tranquille ce soir parce qu'il était dur à contrôler. Mais je pense que le Canadien se doit de sortir fort ce soir après leur dernier match face à Buffalo.
Les Sabres de Buffalo, t'en as parlé, Tage Thompson qui a 51 points en 49 matchs. Hier, j'entendais à la radio qu'il a 23 points en 20 matchs en carrière contre le Canadien, donc ça va très bien pour lui. Il y a Josh Dome qu'on a acquéri dans une transaction du côté des Sabres à l'été qui fait très bien avec 35 points en 49 matchs. Je viens de signer une prolongation de contrat de 7 ans là-bas, donc on aime beaucoup ce qu'on voit du côté du jeune Dome, qui est le fils de Shane Dome, pour les gens qui le connaissent, ancien joueur des Coyotes de Phoenix de l'Arizona et ancien capitaine aussi d'équipe Canada.
Puis quelle signature, on parle de 7 millions sur 7 ans pour un jeune, là, on va s'entendre, Shane Dome, il Il n'est pas vieux. Josh Downe, excusez-moi, tu m'as aidé, Jeff, en parlant de Shane Downe. Josh Downe, il n'est vraiment pas vieux.
Non, pas du tout.
Il a présentement 23 ans. 7 millions sur 7 ans pour un jeune qui a présentement 35 points en une cinquantaine de matchs. C'est un excellent contrat, considérant que la masse salariale va grandement augmenter au cours des prochaines saisons.
Oui, exactement. Donc, excellent contrat de la part des Sabres de Buffalo. Ils sont à Montréal ce soir, puis dans la Ligue nationale de hockey. Pas besoin de vous rappeler que le classement est très serré. Montréal pointe au troisième rang de la division Atlantique à 63 points, mais les Sabres sont derrière à 59 points avec un match en main, donc match de 4 points très important.
Oui, puis on a tendance à les perdre dernièrement, sauf contre les Sénateurs. Tous les matchs dans notre division sont excessivement importants cette saison.
Exactement. Et parlant de matchs importants hier, belle victoire des Wings de Détroit 2-1 en prolongation sur les Maple Leafs de Toronto. Les Wings ont maintenant 66 points au classement. John Gibson, le gardien de but qu'on a acquis durant la période estivale, 16 victoires et 2 revers à ses 18 derniers départs. Donc vraiment, il est en train de se relancer à Détroit et de permettre peut-être bien aux Red Wings d'enfin faire les séries après plusieurs saisons à l'extérieur des éliminatoires.
Puis John Gibson, je trouve ça le fun que t'en parles parce qu'il connaît une bonne saison. Puis ce gardien-là, à l'époque, avec les Ducks d'Anaheim, il était perçu dans les années, je dirais, 2016 à 2021 comme un des meilleurs gardiens de la Ligue. Il a juste eu jamais d'équipe devant lui. Là, il a la chance d'avoir une équipe qui joue devant lui. Ça va être fun de voir jusqu'où il pourra amener les Red Wings cette saison.
Ah oui, très belle équipe rapide, les Red Wings de Détroit. J'ai adoré, j'ai écouté la troisième période hier contre les Maple Leafs de Toronto. Après la pause, Mathias, tu nous as préparé un dossier sur le logement parce que, bien que la ville de Québec a 5700 portes présentement en chantier pour le logement, pas sûr que la famille moyenne tripe beaucoup.
Ben juste pour vous donner une idée, on est passé d'un taux d'inoccupation à moins d'un pour cent à 2,2% de taux d'inoccupation, ce qui est relativement correct là, pour vrai. Pourtant, dans la dernière année, 6,7% d'augmentation pour le logement locatif. Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que ça va changer prochainement? On traite de ça après la pause.
Ah, donc, après la pause, à l'émission On en jase, dossier sur le logement. Est-ce que nos logements sont abordables à Québec? Mathias Turcotte fait le tour pour nous.
Pascal CV.
Boulevard 101, sur l'heure du midi, c'est l'émission On en jase. Exactement 13h30 minutes, moins 7 degrés présentement au thermomètre. Ça va descendre jusqu'à moins 3. Moins 10 degrés demain, quelques averses de neige. Averses de neige aussi pour aujourd'hui. Présentement, il n'y en a pas, mais c'est très nuageux, très couvert. Moins 18 samedi ensoleillé, moins 16 neige intermittente pour dimanche avec facteur de refroidissement éolien dans la nuit de samedi. Ça peut aller jusqu'à moins 40. Bravo à l'Aube-Rivière qui va offrir des services additionnels aux personnes itinérantes. Et pour les aider, on texte le 410-10. Ça fait un don de 10$ à la maison l'Aube-Rivière. Puis ça va leur permettre, entre autres, de faire déjeuner toutes les personnes itinérantes en fin de semaine qui vont avoir bravé le froid. Ça sera vraiment pas facile pour eux. Petit élan de solidarité, guys. Parlant d'élan de solidarité, Mathias, on parle énormément de logement abordable, de logement social pour les gens ici à Québec, parce qu'on sait le coût de la vie a augmenté en flèche et les familles moyennes ont de la difficulté. Le maire Marchand se pète les bretelles de 5700 mises en chantier, mais est-ce que ça va tout régler?
Bien, je veux dire, d'un certain sens, le maire Marchand a raison. C'est excellent, puis c'est une bonne chose qu'il y ait des logements construits à Québec. Là, ça, tout d'abord, il faut le spécifier. Par contre, en ce moment, on se rend compte que peu à peu, peut-être que ça ne marche pas tant que ça, construire juste beaucoup de logements. On a un taux d'inoccupation qui est passé à 2,2%. Mm-hmm. Donc, un taux d'inoccupation qui est bien meilleur qu'il y a de ça un an. On était à moins d'un pour cent. Moins d'un pour cent, c'est vraiment dramatique.
Non, vraiment. Puis normalement, quand tu arrives à 3%, 4%,
exact.
C'est ça. Là, normalement, ta ville va bien.
Par contre, malgré le fait que le taux d'inoccupation monte quand même, on a 6,7% d'augmentation au logement locatif pour la ville de Québec en 2025, ce qui est énorme. J'ai posé la question à Bruno Marchand, qu'est-ce qui explique ça? Voici sa réponse.
La hausse à Québec, sur toute valeur résidentielle, pas juste le locatif, mais aussi sur la vente de propriété, elle a été énorme. La progression des coûts ou des ventes a fait en sorte que on est un marché encore très attractif, mais on a rattrapé beaucoup d'autres grandes villes canadiennes qui étaient loin en avant de nous. La progression des dernières années, le coût, ça coûte plus cher. Il y a eu une progression du prix de vente, entre autres, et du prix du locatif. Dans le locatif, ce qui fait ce que vous mentionnez, qui dépasse le 3,1% de la régie du loyer, c'est que tout le logement neuf vient influencer alors que le logement déjà existant n'est pas à 6,1 % d'augmentation. C'est beaucoup la question du logement neuf et notamment la clause des 5 ans qui leur permettent d'augmenter au-delà de la recommandation de la Régie du bâtiment.
Oui, parce que moi, Mathieu, je vois des tours à condo pousser, mais je me disais, hey, ces logements-là, c'est pas abordable. J'ai habité dans une tour à condo pendant un an, puis je vais te dire une affaire, j'ai payé très, très, très cher. Alors, il doit y avoir quelque chose qui se produit quand même au niveau du coût de loyer moyen qui fait en sorte que même si on construit plus de logements, il est encore en augmentation, en très forte hausse.
Oui, c'est ça, parce qu'on parle d'un taux d'inoccupation qui augmente, mais le taux d'inoccupation pour des loyers de 1250 $ ou moins par mois reste à 1 % présentement. Le taux d'inoccupation pour 1250 à 1500 $, c'est 2,6 % puis à partir de 1500 $ et plus, c'est là qu'on tombe à 4,5 %. Donc, le taux d'inoccupation pour des logements qu'on juge abordables reste bas. Par contre, il y a comme certaines théories que si on construit du neuf, ça devrait baisser le prix du marché en général. Ça devrait permettre des gens d'accéder à des loyers abordables plus facilement. Par contre, présentement, ben, c'est pas vraiment ça qui semble se produire, puis ça semble pas vraiment fonctionner. Je me suis donc entretenu avec différentes personnes dans le milieu, notamment Geoffroy Boucher, qui est économiste à l'Observatoire des inégalités du Québec. Puis j'ai posé cette question-là parce que on dit, du côté de certains économistes qui prônent la construction de logements, puis la construction de logements, puis on va rajouter du logement neuf, puis le monde pourra se loger. On parle d'un effet cascade. Ça, l'effet cascade, c'est quoi? C'est que les personnes avec des meilleurs salaires qui habitent dans des logements moins chers, quand il y a des nouvelles constructions neuves, bien, ils changeraient de logement à ce moment-là. Par contre, ce qu'on nous dit du côté de Geoffroy Boucher, c'est que ça ne se passe pas exactement comme ça présentement.
Et là, selon ces personnes-là, ça ne serait pas grave si les développeurs construisaient uniquement des logements très dispendieux parce que, bon, les ménages mieux nantis prendraient ces logements dispendieux-là, puis par effet cascade, libéraient leur logement pour des ménages à revenus moyens et ainsi de suite jusqu'aux ménages à faible revenu. Mais dans les faits, ce n'est pas du tout ce qui se passe en contexte là, d'incertitude économique puis de hausse marquée du coût de la vie. Les logements très dispendieux, ben ils demeurent vacants.
Oui, clairement, parce que le coût de la vie a tellement augmenté que si tu as encore ton logement, puis là, je donne un exemple, à 1250 $, t'en départiras pas. T'sais, l'épicerie a monté de 6,7 %.
Oui, puis je veux dire, 1250 $, c'est faut prendre en compte, ça reste cher pour un logement. Là, on ne s'en rend pas nécessairement compte parce que c'est 30 % la cible environ pour le logement qu'on cible
de notre revenu. Oui.
Exactement. Fait que ça reste difficile à atteindre pour beaucoup de personnes, même ceux qui ont un salaire parfois meilleur. Fait que forcément, on garde ce logement-là. Mais là, l'autre questionnement que j'avais, c'était si on a des logements qui sont plus chers puis qui sont vides, qui commencent à être vides.
Propriétaire doit baisser le prix.
Ben, c'est un peu ça la logique qu'on se dit. Du côté de Geoffroy Boucher, encore une fois, on nous dit que c'est pas vraiment ça qui se passe.
Il faut savoir que le logement lui-même, c'est un actif immobilier. Donc, même s'il n'est pas loué, il peut prendre en valeur. Donc, pour certains logements de luxe là, dans les grandes villes, à Québec, à Montréal, mais aussi ailleurs au Canada, il y a plusieurs logements de luxe qui sont complètement vacants. Mais ce n'est pas un souci, disons, pour les propriétaires ou les grandes entreprises qui possèdent ces logements-là, parce que la valeur de ces logements-là, l'actif, lui, augmente, même s'il n'y a pas de loyer qui vient avec.
Quand on parle d'augmentation de 7 % sur une année sur du logement, bien, le propriétaire du logement, lui, simplement avoir ce bien-là en sa possession, bien, il a ce 7 %-là dans ses actifs d'augmentation chaque année. Fait qu'au final, même s'il loue pas son bloc, c'est le même principe si tu achètes une terre à bois, par exemple, puis tu fais absolument rien avec ta terre à bois. Mais ta terre à bois va prendre en valeur d'année en année, même si tu fais rien avec. Mais pour un propriétaire, c'est sûr qu'avoir un bloc complètement vide, c'est un peu ridicule. Mais qu'il y a quelques appartements un peu de vacants, de un, ça t'enlève de l'entretien, ça t'assure que tes appartements restent en bon état, et ton bloc prend quand même de la valeur, donc ça te force pas nécessairement à baisser tes prix pour autant.
En effet, il y a pas sur sa marge bénéficiaire, il voit pas beaucoup de différence quand il y a un par-ci, par-là de libre. Donc, c'est pour ça qu'il ne viendra pas baisser le prix. Parce que baisser le prix, ben, peut-être bien qu'après ça, il va y avoir des rénovations qui vont être obligées d'être faites. Puis là, sa marge bénéficiaire, justement, va être réduite avec ça.
Exactement. Donc, eux autres, c'est vraiment à leur avantage. Puis la question qui s'emmène, parce que là, on a eu le taux de régulation du tribunal administratif du logement qui est sorti cette semaine. On a mis le pourcentage d'augmentation recommandé à 3,1 %. Ce qu'on voit dans la réalité, c'est que cet auto-là, il n'est pas nécessairement respecté parce que c'est une recommandation. Et justement, je me suis entretenu avec Émile Boucher, qui est du regroupement des comités de logement et d'association des locataires, qui nous dit que ce chiffre-là, c'est pas vraiment des plafonds, puis que justement, ils sont pas souvent respectés.
Les propriétaires n'ont pas nécessairement à le respecter. La grande majorité des hausses de loyer au Québec sont négociées entre le propriétaire et le locataire. Et pour nous, c'est négocié de manière un peu asymétrique. Donc, les propriétaires ont le plus beau rôle, puis c'est plus facile. Ils ont plus d'informations en main, puis ils ont plus de leviers. Et c'est ce qui pose problème. Donc, c'est pour ça que peu importe les indices qui sont recommandés par le TAL, bien souvent, ce qu'on constate sur le terrain, ce que les locataires vivent, c'est des hausses beaucoup plus élevées.
Oui, puis en plus, si on regarde ce que le TAL a fait dans les deux dernières années, c'était au-delà de 5 % l'an passé, oui. 3,1 % Puis les gens sont tellement prisonniers présentement de la crise du logement qu'ils sont prêts à accepter des hausses plus grandes qu'à la normale.
Dans les 3-4 dernières années, on parle des plus grosses augmentations dans les 25 dernières années par les recommandations du TAL, tout simplement. Mm-hmm. Ça reste qu'un locataire, par exemple, tu reçois ta hausse de loyer. Tu as 30 jours pour répondre. Tu peux refuser la hausse. Ça se fait. C'est juste la question souvent qui se pose, c'est « Je veux-tu m'embarquer dans des négociations avec mon propriétaire, aller devant le tribunal? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai l'énergie à fournir? »
J'ai-tu le temps? J'ai-tu cette énergie-là à fournir? Et est-ce qu'il va m'arriver quelque chose après? Parce que malheureusement, dans l'actualité, on en a vu des propriétaires après ça trouver des excuses pour évincer des locataires.
Parce que j'ai pas le chiffre pour 2025, mais en 2023, l'augmentation moyenne lorsqu'on changeait de locataire, c'était 18 %
Aïe, aïe, aïe! 18%. C'est payant changer de
Ben oui, c'est ça. Fait que les propriétaires, présentement, un locataire qui pourrait être un peu plus tannant, qui dit « Hey, je m'en vais, j'imite ta hausse », ben il pourrait dire « Je trouve un moyen d'évincer, puis par la suite, je grimpe ça à 20 % pour lui qui s'en vient après. »
C'est clair. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu des investissements du gouvernement du Canada via le programme Maison Canada hier. 1 milliard, et cet investissement-là va se faire sur les infrastructures souterraines, égouts. Donc, ça va permettre aux municipalités, après ça, de construire des logements plus abordables et des logements sociaux.
Oui, exactement. Puis on va... Le fédéral veut construire plus de logements sociaux par Maison Canada. Il y a eu une entente hier de collaboration avec la province de Québec qui permettra de mettre en place des ententes un peu partout au Québec en termes de logements sociaux qui seront subventionnés par le fédéral. Maison Canada qui a présentement une enveloppe de 13 milliards de dollars pour tout le pays. On aura également des investissements privés, des investissements provinciaux, mais une chose est sûre, présentement, on semble avec mes discussions avec Geoffroy Boucher ou encore Émile Boucher, on semble arriver avec deux types de solutions. Plus de logements sociaux, forcément, pour baisser le prix du marché, ou encore du côté du regroupement des comités de logement et de l'association des locataires. Ce qu'on demande, c'est que le TAL mette un pourcentage qui doit être respecté, un plafond de pourcentage. Tu ne peux pas augmenter
qui doit
au-dessus
être respecté.
De ça. Forcément, il pourrait avoir des exceptions en cas de rénovation si on fournit des factures. Mais sinon, voici le pourcentage. Tu ne peux pas aller au-delà de ça.
En effet, ça va de pair avec le texto de Jeff qui vient de rentrer au 418-971-101 qui nous dit « Faites attention parce que dans la réalité, le problème, c'est souvent plus haut que ce que le TAL a décidé en raison justement des taxes municipales, taxes scolaires, des assurances, des travaux majeurs. »
Oui, puis je veux juste rajouter un dernier point. Là, je tiens à dire, c'est pas de la faute des propriétaires non plus. Je veux dire, le coût de la vie augmente sur eux. Puis je veux dire, eux autres, au final, le but, c'est de faire du profit. Il faut penser à ça également. Mais c'est sûr qu'avoir des augmentations de 20 % pour certains logements, ça pourrait être intéressant de faire mettre des réglementations un peu plus strictes.
Clairement, puis ça appartient justement à nos paliers de gouvernement de les aider là-dedans aussi, pour que les logements demeurent abordables. Mathias, excellent dossier. Good job. Tu nous as vraiment bien résumé ce qui se passe en logement à Québec et on va continuer à suivre ça très attentivement. Après la pause, on termine notre dossier sur les cégeps. Il n'y a pas juste Québécois qui faisait ça. Il y a l'émission On en jase aussi. Et on va s'entretenir avec Isabelle Morin, professeure de sociologie au cégep Limoilou, qui lance ce soir son tout premier livre, Ma vie de cégep. On va parler des défis des étudiants au cégep à l'heure actuelle. Il y en a énormément. Notamment le côté monétaire. Je pense que tu le sais, Mathias, c'est aux études à l'Université Laval. C'est pas facile.
Non, effectivement.
On parle de ça. On en jase après cette courte pause sur Boulevard 101. 13h47 minutes. Vous êtes à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1. Québécois, via le Journal de Québec et le Journal de Montréal, a fait un gros dossier sur les cégeps. On en a parlé, nous aussi, on a parlé des infrastructures lundi avec Marie Montpetit, présidente de la Fédération des cégeps. On a parlé mardi d'aide alimentaire avec Marie-Pierre Aubert, directrice adjointe au département de sociologie au cégep Garneau. Et pour poursuivre dans la même veine de comment nos étudiants vont à l'heure actuelle dans nos cégeps, on reçoit Isabelle Morin, professeure de sociologie au cégep Limoilou, qui lance ce soir son tout premier livre, Ma vie au cégep. Isabelle, comment vas-tu?
Ben, je vais très, très bien.
Tu dois être fébrile de lancer ton premier livre?
Ben oui, vraiment.
Ouais, hein?
Oui, je suis très, très fébrile. Je suis très contente, vraiment, très fière.
C'est ça. C'est quoi les défis à l'heure actuelle de nos étudiants? Avec Marie-Pierre Aubert du Cégep Garneau, on a parlé beaucoup d'aide alimentaire, de défis monétaires. Est-ce que c'est leur plus gros défi à l'heure actuelle de réussir à arriver à la fin du mois?
Bien, ça dépend des étudiants, là. Tu sais, je pense qu'il y a plusieurs étudiants qui vivent chez leurs parents et que ce n'est pas un enjeu. Il y a pour d'autres que oui, c'est un enjeu. Moi, ce que je constate dans mes cours puis dans mon expérience, évidemment, la pauvreté, les enjeux, c'est sûr que ça en fait partie, là. Mais pour moi, je trouve que c'est plus au niveau de la santé mentale, au niveau de l'anxiété, au niveau du stress. Je trouve que c'est ça qui... Mais c'est une partie, tu sais, parce qu'il y a d'autres aspects d'eux où ils sont super forts, où ils sont résilients, ils sont ouverts d'esprit, ils sont curieux aussi des autres. Mais en même temps, l'anxiété, le stress, la comparaison, ça, ça prend beaucoup, beaucoup de place.
Vous avez au cégep beaucoup d'étudiants qui ont fait l'école, malheureusement, dans la COVID.
Ben oui.
Puis je pense à mon grand garçon qui a commencé son cégep cette année, qui avait commencé son secondaire dans la COVID. Ça paraît-tu?
Oui, ça paraît. Puis, sais-tu quoi? Ça paraît, puis ils me le disent aussi eux-mêmes. Tu sais, comme on a été obligé de rétablir, si on veut, c'est quoi être en classe? OK? Tu sais, quand t'es en ligne, là, tu fais tes cours en ligne. C'est plate en tabarouette.
Oui.
Mathias
le sait, il y en a plein de cours en ligne.
Non, c'est démotivant pour les profs aussi, hein, je peux vous le dire. Tu sais, de voir des écrans, pas des écrans, mais des bulles ou arcs.
Oh, bon, non,
c'est du passé, mais le passé, tu sais, est parfois garant de l'avenir, hein, n'est-ce pas? Fait que c'est comme s'ils ont perdu le sens du collectif. Tu sais, en classe, là, pourquoi on est en classe? Pourquoi on... Parce que, tu sais, si être en classe, ça veut dire qu'on apprend ensemble. Tu sais, parce que sinon, ben soyons chacun chez soi, va sur l'intelligence artificielle, puis met les numéros, tu sais, tape, je sais pas moi, un concept sociologique, peu importe, moi, c'est ma discipline, mais puis ils vont te le dire.
Fait que là, t'es-tu en train de me dire qu'ils veulent plus faire de travaux d'équipe, puis moi, j'en rêvais dans mon temps de faire des travaux d'équipe?
Ben non, mais là, je sens que ça revient. Je sens que ça revient, par contre. Mais c'est sûr que les travaux d'équipe, c'est un enjeu.
Ouais, ben moi, je tiens à dire, je déteste les travaux d'équipe.
Non,
mais pour vrai, autant au cégep,
puis
je suis à l'université présentement. Okay. Puis la raison pourquoi je déteste ces travaux d'équipe, c'est que tu te ramasses souvent avec du monde que tu connais pas puis qui fait mal le travail.
Ouais.
Ou qui le fait tout simplement
pas.
Ça arrivait. Moi, c'est pas l'aspect social.
Ça arrivait, mais c'est parce que, tu sais, faire une réunion au pub, là, c'est le fun en crime.
Ouais, ben là, la bière coûte trop cher, Jeff. On en fait
c'est
plus
ça,
de réunion
au pub. Vous avez plus d'argent, plus faire de réunion au pub.
Mais tu sais, quand tu me dis ça, là, dans le travail d'équipe, c'est vrai là, que, tu sais, puis on essaie de réserver des plages horaires en classe, tu sais, pour pouvoir concilier les horaires, tu sais. Mais en même temps, dans le travail d'équipe, ben, d'apprendre à s'affirmer, ça fait aussi partie des apprentissages. Parce que quand, justement, tu es en équipe avec quelqu'un qui ne fait pas sa job, ben faut que tu lui dises. Tu
n'as pas le choix.
Ben ouais, mais le pas le choix, il y en a qui vont faire le choix de ne pas le dire parce qu'ils sont mal, parce qu'ils n'ont pas assez confiance en eux pour le dire. Donc, tu vois, même dans le travail d'équipe, qu'il y a des contraintes, ben je pense que c'est quand même un exercice pédagogique et social parce qu'on travaille en équipe. Après, dans la vie, c'est rare qu'on est tout seul, là. T'sais, on n'est pas sur une île déserte, personne. Là. Fait que mais je sais que c'est grippette. Mais oui, donc, de travailler en équipe, c'est devenu quelque chose de plus difficile pour eux.
Est-ce que vous voyez une différence pour les examens qui se font en vrai? Parce que quand on avait des cours en ligne, puis moi, à l'université, encore une fois, j'ai des cours en ligne. Puis des examens qui se font en ligne, on le voit dans les moyennes. Et les moyennes sont souvent hautes parce qu'on a accès à toutes sortes de choses. Puis il y a certains étudiants qui peuvent prendre une intelligence artificielle, par exemple. Mm-hmm. Tandis qu'en classe, tu n'as pas le choix de connaître ta matière.
Exact.
Puis là, les moyennes sont désastreuses. Depuis le retour de la COVID, en vrai, est-ce que vous voyez une baisse de résultats pour les examens? Non, pas nécessairement.
Non, bien, je comparerais pas mes années. Tu sais, je comparerais pas des pommes avec des bananes. Fait que, tu sais, je pourrais pas comparer mes moyennes de maintenant avec les moyennes pendant la COVID parce que t'as raison, tout le stock est là. Puis de toute façon, même avec l'intelligence artificielle, nous, les profs, on est obligés de repenser là, à nos, notre structure d'évaluation parce qu'on n'a pas le choix. Là. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on fait beaucoup plus d'évaluation en contexte contrôlé, c'est-à-dire en classe, parce que qu'est-ce que je veux mesurer? Bien, je cherche à mesurer la compréhension, ce qui est capable d'expliquer, ce qui est capable d'appliquer. Bon, bref, tu sais, bon. Mais si, non, quand je regarde mes moyennes et tout ça, il n'y a pas... non, je vois pas nécessairement de différence si je compare avant la pandémie puis maintenant.
Mm-hmm. C'est quoi le facteur stress principal chez les étudiants?
Bien, je pense qu'il y en a qui sont très anxieux de performer, tu sais, ou en tout cas, de ne pas performer.
Ouais.
Puis ceux qui sont pris avec cette peur-là, cette anxiété-là, soit ça les, soit il y en a que ça les propulse, donc ils vont être très perfectionnistes, puis là, tu sais, ils vont se donner, prendre des notes, tu sais, nous écrire, m'écrire, puis j'en parle dans mon livre, là, tu sais, il y en a, tu sais, quand cette anxiété-là de performance scolaire est très présente, bien là, c'est ça, ils vont m'écrire la fin de semaine, le soir, urgent, j'ai une question, bon, ça... Mais d'autres que cette anxiété-là, ce stress-là va les ralentir. Puis là, ils vont procrastiner. Ils vont comme éviter d'être confrontés, tu sais, parce que c'est souvent l'ego, là, tu sais, donc la peur d'être jugé, la peur. Mais ça, c'est très présent, ouais.
Mais est-ce que. Qu'est-ce qui expliquerait cette anxiété-là de performance chez notre génération?
Ils se comparent. Oui, parce que toi, t'es une génération.
Oui, oui, je suis jeune.
Ben oui.
22 ans. Fais un excellent travail, je l'adore. Je m'en passerai pas de Mathias.
Tu vois comment c'est beau le mélange générationnel.
Ben
hein?
Oui.
Hein? Voilà, c'est important. Mais en fait, ce qu'il... Puis là, écoutez, là, je ne suis pas une spécialiste de la jeunesse, puis je ne suis pas la porte-parole des Gen Z, là, même si j'ai mon petit balado, puis j'ai écrit le livre là, quand même. Mais fait que la lecture que j'en fais à travers ce qu'ils m'expriment, ce qu'ils me disent, c'est beaucoup lié aux réseaux sociaux. C'est beaucoup lié à l'utilisation des réseaux sociaux où on se compare, ouais. Puis, tu sais, c'est ça, quand on fait, je sais pas moi, qui n'ont pas un bon résultat ou une moins bonne performance, bien, tu mets pas ta face en photo avec ta pas bonne performance.
Non, c'est ça. Tout le monde a une belle vie, puis tout le monde est bon sur les médias sociaux. Alors que tout le monde vit ses échecs et ses difficultés.
Bien, la vie, c'est ça, tu sais, c'est pas un long fleuve tranquille, mais sauf que sur les réseaux sociaux, bien, c'est pas vrai, tu sais.
Mm-hmm.
Fait que, puis on est dans une société de performance, donc ils le sentent, ils se mettent de la pression. Ils sont très anxieux aussi sur le plan financier, hein. Ça, je tiens à le dire. Là. Puis ça, j'ai été bien étonnée de ça, là. Puis ça, c'est peut-être que ça explique aussi là, le stress lié à la performance scolaire, là. Tu sais, ils me disent, nous, on est des gratteux. Je suis comment vous êtes des gratteux? On est gratteux parce que, tu sais, on sera peut-être même pas capable, nous, de s'acheter une maison. Ou de... Fait que peut-être que ça contribue aussi à ce stress-là de devoir réussir. Puis... Mais je le répète, là, le stress, l'anxiété... Il y en a que ça les propulse, mais il y en a plusieurs aussi qu'ils vont comme se mettre en échec.
Oui, c'est un frein.
Oui, exactement.
Un très gros frein. Isabelle Morin, professeure de sociologie au Cégep Limoilou. Tu lances ton premier livre ce soir à quel endroit?
Au domaine Mince-Oreille.
Quel bel endroit.
Mais tellement.
Mais avec la petite neige qui est tombée aujourd'hui en plus.
C'est féerique. Absolument.
Être incroyable. Le livre Ma vie au Cégep qui traite de plusieurs thématiques, notamment des violences sexuelles aussi.
Oui.
Si tu veux, je te réinviterai au studio pour on en parlera de ça, des violences sexuelles chez les jeunes.
Avec plaisir.
Ça m'intéresse d'en savoir plus parce que je me fais un devoir de parler aux gars. Là. Il y a beaucoup de féminicides là, depuis le début de l'année. Il faut qu'on change notre comportement, les hommes. Là.
Oui.
Pour qu'on soit plus bienveillants.
Très d'accord. Serai là.
Exactement.
Oh yeah.
Et sinon, c'est disponible à quel endroit, ton livre?
Donc, le livre va être disponible à partir de demain dans toutes les librairies indépendantes de la Ville de Québec, mais sinon, dans les plateformes d'achat en ligne aussi, puis bien sûr, sur le site de l'édition, des éditions Libride. Puis, il y a une version aussi, là, je suis pas bonne dans les termes techniques, mais PDF, PUE, pub,
PDF, probablement.
C'est pas PDF, mais en tout cas,
okay,
bref,
mais c'est en ligne.
Pour sa tablette et machin.
Excellent. Isabelle Morin, merci pour tout ce que tu fais pour nos étudiants au Cégep. Continue ton excellent travail.
Je reçois autant que je donne.
Ah, c'est bien dit, ça. Merci beaucoup.
Merci.
C'est déjà tout pour l'émission. On en jase le retour de Gravel qui suit à l'instant même avec Denis, Véro et Audrey. Restez à l'écoute parce que vous allez entendre parler du discours de Mark Carney qui est en train de se faire, du résultat du vote de grève pour le Massif et sûrement encore une fois de la course à la chef.
Ça arrête jamais. Bonne journée tout le monde.
Non, Mathias, merci beaucoup. Salut, bonne journée, guys.
On en jase jusqu'à 14h. On en jase.
En janvier, mettez du piquant dans votre vie avec Quesada. Le petit burrito au poulet épicé est à seulement 6,67 $. Commandez au quesada.ca. Faites-vous livrer ou passez-nous voir Avenue Saint-David à Beauport.